With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
That was the best acting I've ever seen in my whole life.
Thank you.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous?
Bah ça va
très
toi
bien. Ça va, bah c'est toujours un régal d'être avec vous. Ah. Ça me plaît d'être avec vous. Je tiens à vous le dire, voilà.
Moi aussi.
Bah ça soulève très peu d'enthousiasme. Hein.
Bah, nous aussi,
je
voyons.
Nous aussi, pardon.
Bah, je vais couper au montage le moment où je dis ça.
Non, bien sûr, ça nous plaît.
Aujourd'hui, nous recevons François Descraques. Comment tu vas?
Ça va super.
T'es content que d'être avec moi comme ça?
Bah ouais, ouais,
bah lui,
ça fait longtemps.
Enthousiaste.
Bah ouais, carrément, mais ouais, de ouf.
Je le connais moins que vous, et il est plus enthousiaste.
Peut-être pour ça.
C'est peut-être pour ça.
Alors, est-ce que tu peux te... Je couperai au montage aussi ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Alors, je suis réalisateur et scénariste sur plein de supports différents. Voilà.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire le web, la télé... La BD, les romans et bientôt le cinéma.
Oui, qu'on en parle dès maintenant là, parce que tu prépares ton premier film.
Ouais.
Qui va sortir quand?
Alors, il est en fin de post-prod, mais il sortira pas tout de suite. Il sortira en 2022, ce qui veut tout dire et rien dire. Plutôt fin d'année, enfin entre mi et fin d'année, mais voilà quoi. On est. C'est pas moi qui décide de la date, faut savoir. Et le distributeur, donc à savoir KMBO, a daté le film en octobre 2022. Mais bon, on est large et on a le temps de.
Et alors, c'est quoi ce film? Parce que j'imagine que beaucoup de gens qui nous suivent connaissent ce que tu as fait avant sur Internet. Mm-hmm. Et c'est issu d'un format que tu avais lancé sur Internet.
Voilà. C'est l'adaptation de la série qu'on a faite depuis 10 ans, Le Visiteur du Futur. Voilà. En format long métrage.
Et est-ce que tu peux nous donner des noms d'acteurs qui seront dans ce film? Acteurs et actrices? Non, tu peux pas.
Si, je suis sûr. Alors, on a les acteurs de la série. Donc, okay. Florent Dorin, mon frère Raphaël Descraques, Slimane Baptiste Beroun. Et on a des nouveaux venus comme Arnaud Ducret, qui a un des rôles, on va dire, principaux dans le film, qui est un nouveau personnage. Enya Barou, qui est actrice et réalisatrice, et aussi fille de Olivier Barou. Mm-hmm. Et on a aussi des copains, comme on dit, comme Audrey Pirot, Vincent Tirel. On a aussi Assassila. Il y a plein de gens. Il y a Ludovic aussi.
Denzel Washington.
Oui, Denzel.
C'est trop bizarre de dire Denzel Washington.
Très bien. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un film qui a marqué les années 2010, à savoir Once Upon a Time in Hollywood. Sorti en 2019, Once Upon a Time in Hollywood est, selon les dires de son réalisateur, Quentin Tarantino, son avant-dernier film. Et quel film ? Se déroulant à la fin des années 60, il reproduit fidèlement l'ambiance de l'époque et raconte l'histoire d'un acteur de série B, Rick Dalton, et de sa doublure cascade, Cliff Booth. Je n'en dis pas plus pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore vu. Ce film fut un succès critique et commercial, remportant de nombreux prix, dont celui du meilleur film et du meilleur scénario aux Golden Globes, mais aussi quelques récompenses personnelles, dont l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt, et c'est important, une palme d'og pour le chien du film. Je tiens d'ailleurs à ajouter qu'un Oscar a également été attribué à Barbara Lynf et Nancy Hafe pour les meilleurs décors, et c'est peut-être là la statuette la plus méritée. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec François.
Moi, forcément, je suis partie de la génération qui a grandi avec Tarantino, donc je suis chacun de ses films comme un événement. Je suis pas forcément le plus grand fan de Tarantino. J'aime beaucoup ses films, certains plus que d'autres, mais celui-là forcément je l'attendais parce que il était un peu annoncé comme étant son ultime film, quoi. Genre ça y est. Non, en plus par le titre, quoi. Genre le gars, on sait qu'il est fan de Sergio Leone, donc le titre rappelle un peu le Once Upon a Time et in America, tout ça. Donc il y avait ce côté un peu film testament, il va tout mettre dedans, le casting incroyable. Donc c'est un film que j'avais dans mon périmètre depuis longtemps. Et du coup, quand je l'ai vu, je sais plus quand. Enfin, quand je l'ai vu, j'étais surpris quand même. Je me rappelle pas trop. Enfin, les Tarantino, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, on pense connaître le film en voyant les bandes annonces, et en fait, quand on voit le film, c'est autre chose. J'ai l'impression. Et donc, du coup, voilà, j'étais surpris, décontenancé, je pense, aussi, comme tout le monde. Et après, j'ai fait, je crois que j'aime bien, même si je comprends qu'on déteste.
Oui, parce que t'as raison de dire ça, parce que j'ai le sentiment que ce film, quand les gens sont sortis de la salle, beaucoup étaient en mode, ok, soit j'ai adoré, soit j'ai pas trop aimé, et ça pouvait changer avec le temps. Mmh. Les gens qui avaient aimé, finalement, bah, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas trop aimé, mmh. puis inversement.
Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un... Mais c'est ça la force de Tarantino, c'est que il peut être facilement parodiable et en même temps il se renouvelle aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il prend les gens à contre-courant, et dans ce film-là, c'est ça, c'est que d'un côté on attend voir un film violent et vénère, et pendant pratiquement tout le film, c'est pas du tout ça. C'est des gens un peu tristes, c'est un film pratiquement documentaire. Puis à la fin, c'est violent et vénère quand même. Mmh. Mais voilà, donc du coup, c'est... Et en même temps, je te dis, quelqu'un pourrait me dire, j'ai détesté le film parce que je trouve ça trop long, inintéressant et un peu macho. Je fais, oui. Enfin, c'est un argument valable aussi, tu vois.
Mmh. Guillaume, ton premier souvenir du film ?
Bah, c'est à peu près le même que toi, parce qu'on l'a vu ensemble.
Ah, on était ensemble ?
On était ensemble.
Ok, d'accord. Ok,
et
cool.
Oui. Et
s'en rappelle plus.
Moi, mecs. J'ai trouvé ça bien. Mais alors après, bon, y a un moment quand même, dans le film où je me suis dit... Putain, ça fait combien de temps que je suis dans cette salle? Et vraiment, j'étais là, putain, mais c'est archi long en fait. Ah ouais. C'était vraiment archi long. Parce qu'au final, après, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, on va pas vraiment spoiler, mais c'est vrai que, comme tu le disais, toute la première partie, si tant est que la deuxième partie soit la fin, globalement, bah, il se passe pas grand chose, quoi. Alors, c'est du jeu d'acteur, etc. Et comme tu disais, c'est un peu documentaire sur le Hollywood des années 70, etc. C'est hyper bien fait, évidemment. Le jeu d'acteur est génial. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais là, bon bah voilà, bah, allez enchaîne, hein. C'est genre, je sais pas. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même des grosses longueurs. Après, c'est pas forcément mon Tarantino préféré, comme vous l'aurez compris, mais j'ai quand même des scènes qui me restent...
Détesté, quoi.
Non, j'ai pas détesté, mais détesté. Mais il y a des... C'est marrant parce qu'il y a vraiment des scènes qui me restent en tête, par contre. Ah. De ouf.
Bah, genre, ça, je vais y revenir après sur les
genre
scènes.
Genre la scène DiCaprio avec la petite, etc.
Oui. Enfin, tu vois, ouais,
c'est des scènes cultes, tu vois.
Le ranch aussi.
Ouais, ouais, à fond. C'est des scènes cultes.
Aurélien.
Eh bien, pareil, je pense, je suis aussi de la génération Tarantino, j'ai grandi. Je crois que le premier vraiment, j'y ai pensé il n'y a pas super longtemps, et je crois que le premier film vraiment un peu auteur que je suis allé voir de moi-même au cinéma, en VO et tout, c'était Pulp Fiction, au cinéma. Je m'étais dit genre, waouh, c'est ça le cinéma en fait. Avant, j'avais vu, je sais pas, Les Visiteurs, La Grande Vadrouille, enfin, tu sais, j'aimais bien le cinéma, mais. Non, mais j'aimais bien le cinéma, mais c'était pas, j'avais pas l'impression de voir un truc un peu différent et tout. Donc, il y a des moments où je déteste Tarantino, d'autres moments où je trouve ça génial. Et là, bah, je pense, comme tu disais, François, ça, il prend à contre-pied, en fait, ce que tu penses qu'il va se passer. Jusqu'à même dans la violence, je trouve, où il a encore inventé des trucs qu'on n'avait pas encore vu avant, je trouve, sans spoiler, vu qu'on spoil pas, là. Mais, notamment avec le chien, voilà, bon, je spoil vite fait, mais. Et j'ai été agréablement surpris. Je pense que moi, je fais partie des gens qui, quand l'ont vu, je suis sorti en mode, ouais, bof. Et en fait, j'y repensais souvent, et il a été pas mal bastonné sur OCS, Canal et tout, et à chaque fois, je l'ai re-regardé, et à chaque fois, il y a des moments différents du film que j'ai aimé, et surtout, je me suis vachement documenté sur la période après. Donc, cool, tu vois, Tarantino, pour moi, c'est un peu ça à chaque fois, c'est que j'ai l'impression que ça me donne plein de sources de plein de choses que t'as envie de revoir après. Ouais, et là, j'ai eu envie de revoir plein de choses, notamment du cinéma italien et aussi de la télévision américaine, qui est un peu le truc, je trouve, qu'il a mis en avant là. Donc, je trouve que c'est cool parce que ça donne encore plein de pistes et je rajoute plein de trucs à regarder, donc cool quand même, cool.
Moi, je fais partie de ceux qui, au contraire, ont pris vraiment une grosse claque après avoir vu le film. En fait, durant la projection, j'ai ressenti quelque chose que j'ai rarement ressenti au cinéma. J'ai l'impression d'être dans une machine à voyager dans le temps, quoi. Tout était si parfait, si bien reproduit, si bien reconstitué. J'ai l'impression que Tarantino nous envoyait dans les années 60, parce que vraiment j'étais impressionné par les images que je voyais à l'écran, quoi. Et puis, j'avais lu pas mal d'interviews après Tarantino qui disaient qu'il avait mis énormément de refs de son enfance dans le film. Et c'est comme s'il avait vraiment tout noté dans un petit carnet et qu'il s'était dit, OK, je vais mettre ça, 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 ça. Et je vais essayer de reproduire du mieux que je peux les années 60, et j'ai rarement vu un film qui reproduit aussi bien une époque.
Et surtout les trajets en voiture.
Exactement.
Ah ouais, c'est trop beau, ça.
C'est exactement le genre de scène qui, normalement, on te dit, bah, tu coupes. Quand il passe d'un point A à un point B, on n'est pas obligé de voir toutes les artères d'autoroute qu'il prend. Et lui dit, non, on va les prendre, chaque route, on va les prendre, et on va mettre chaque voiture de l'époque. Du coup, c'est incroyable, ces scènes-là.
Mais c'est justement là que ça a une importance, parce qu'il veut placer le spectateur dans une capsule temporelle, quoi. C'est vraiment ça. Et moi, j'étais vraiment dans une capsule temporelle. Moi, perso, j'ai pas vu le temps passer. Limite, j'aurais pu rester là encore une heure ou deux à voir. Parce qu'en fait, à un moment, il y avait un moment où c'est justement intéressant que tu dis ça, Guillaume, parce que effectivement, au début, l'histoire met du temps à se mettre en place. Mais moi, ça me gênait pas vraiment parce que j'étais bien avec eux, tu vois. Mmh. C'est vraiment, j'étais dans une machine à voyager dans le temps et j'étais dans les années 60 et j'aurais pu les voir vagabonder, rouler en voiture, juste pour voir les panneaux.
Vraiment c'est GTA, comme... en fait.
Ouais, voilà. Mais il y a un peu de ça, en fait.
Ouais, complètement.
C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Et après, effectivement, si on peut, on peut appeler ça une deuxième partie du film, il y a un truc un peu plus violent. C'est un peu. En fait, ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'il y a un peu tous les ADN de Tarantino, quoi. Il y a de la violence, il y a de la ref, etc. C'est... Et je rejoins un peu ce qu'a dit François. C'est un peu comme si c'était son film ultime, parce que moi je pense qu'il peut s'arrêter avec ce film là alors je sais qu'il a dit que je lui disais d'ailleurs en intro, c'est son avant-dernier film, lui il veut faire un dernier film et puis après terminer. Ouais. Mais moi je pense vraiment qu'il aurait pu terminer avec celui-là, quoi.
Ouais, grave, en plus je trouve qu'il a vraiment mis ce truc que moi j'aime bien aussi, que j'avais adoré dans Inglourious Basterds, c'est de faire une réalité alternative,
une uchronie.
Ça veut dire que c'est tout est fait pour être documentaire, mais il y a quand même un truc où il raconte ce que lui il aurait voulu qu'il se passe, comme s'il voulait donner encore de l'espace à ce moment qu'il a kiffé, alors que tout le monde le dit que c'est le moment où finalement tout s'est arrêté, quoi. Et lui, on dirait qu'il donne un peu plus, comme quand il a buté Hitler, tu vois. Moi vraiment, je me rappelle quand il a buté Hitler, je me suis levé de mon siège. Bon là, j'ai spoilé, mais c'est un film qui a 10 ans, j'ai le droit. Mais vraiment, je me suis levé du siège, et j'ai fait putain, il a osé faire ça en fait.
Alors juste pour préciser, il a pas fait ça dans la vraie vie, il a fait ça dans le film Inglourious Basterds.
Oui, bien sûr, ouais. Il a pas buté Hitler, il était déjà mort. Enfin, soi-disant, on sait pas. Mais oui, dans Inglourious Basterds, il a pris le parti pris de tuer Hitler. Et non,
moi, ce que j'ai aimé avec Once Upon a Time in Hollywood, alors peut-être que c'est moi qui interprète ce message-là et que pas du tout, mais c'est l'idée de se dire, ok, il y a eu un drame horrible à Hollywood qui est l'assassinat le meurtre odieux de Sharon Tate. Et puis, je vais placer mon récit dans cette uchronie-là, et puis à la fin, je vais tout changer. Et en gros, c'est une manière de dire, cinéma permet.
On peut spoiler ou pas?
Finalement, on spoil.
Ouais, voilà.
Non, mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en gros, ce qu'il disait, c'est que le cinéma permet de rendre tout un peu plus beau, quoi. Tu vois,
ça, c'est vrai.
Alors, c'est ça, c'est son film à la fois nostalgique et idéalisé, quoi. C'est pour ça que je trouve le film hyper intéressant dans cette vision-là, même si on peut lui reprocher d'être justement hyper conservateur. Genre le personnage de DiCaprio, chaque fois qu'il voit les mecs de la bande à Manson, il fait « Oh, les hippies! Oh, saleté de hippies !» Et il y a ce côté un peu voilà quoi, un peu macho, un peu en gros le personnage de DiCaprio, c'est une sorte de John Wayne, quoi, genre un mec qui dans les années 60-70 commençait à être un peu trop vieux pour le nouveau cinéma,
ringos,
voilà, un peu ringos, un peu alors que les nouveaux jeunes étaient des gens un peu hippies avec les cheveux longs et du coup c'est un peu le clash des générations déjà, quoi. Et dans ce film, il dit très clairement les vieux gagnent. Enfin, les vieux sont encore les héros, les jeunes c'est des drogués un peu, donc c'est, il y a ce côté un peu réac, quoi. Mais il est quand même touchant, ce film. C'est-à-dire que, parce qu'il te montre les personnages dans leur faiblesse. Surtout, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir DiCaprio vraiment comme un loser. Voir même Brad Pitt qui est d'un côté hyper stylisé et en même temps, c'est un clodo pratiquement, le gars.
Brad Pitt sur son toit, torse nu. Bon,
voilà, ouais. ça c'était. Oui,
il est par l'antenne, quoi.
Ça, c'est la scène où ça fait OK, on rentre chez soi, on fait des pompes.
C'est clair.
Mais ils sont tous assez tristes comme personnages. Ils regardent tous la villa de Sharon Tate en mode « Ah, oh, un jour, j'irai là-bas » et tout. Donc, c'est ça qui est beau, je trouve. C'est de montrer ces gens un peu dans leur faiblesse, dans leur tristesse. Ils commencent à être has-been. C'est là, c'est fort. La première scène, c'est la scène où DiCaprio, son personnage, se rend compte qu'il est has-been. Et ça, c'est fort. Quand on va lui dire « Tu n'es plus le héros des films. Maintenant, tu vas faire le rôle des méchants et tu seras toujours tué par les nouveaux héros, donc les nouveaux jeunes. » Il dit « Ok, bah, je suis has-been. »
Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué plus qu'une autre dans ce film, Guillaume? Une scène qui te revient en tête.
Brad Pitt sur son toit, quoi.
c'était la mienne, c'est relou. Je dois en trouver une autre.
Non, mais oui, effectivement, non, mais l'échange DiCaprio avec la petite, je pense que c'est un truc qui revient où tu te dis, en fait, c'est parfait parce que ça apporte rien, mais c'est genre. Tu sais, je trouvais ça génial, quoi. Juste, ça dure. Tu sais, à Tarantino, quoi, c'est juste une scène de dialogue où ça dure méga longtemps. Et voilà, c'est parfait, quoi.
Puis il y a un contre-pied un peu, genre au début où il pense qu'il est nul et après il fait presta de ouf.
Aurélien,
moi je pense que c'est le ranch, parce qu'en vrai au cinéma je me suis dit il va se passer un truc
énorme,
de ouf.
Tension cette
ça
scène,
ça va être sale de
la,
ouf.
La tension qui monte dans cette scène, c'est incroyable.
Puis tu vois le truc monter de oh, en fait ils sont bizarres, et puis tu sais t'as un truc un peu comme dans un peu à la Hitchcock, un peu comme les oiseaux où tu sais ils se retournent, ils sont deux d'un coup, pouf, ils sont 12, ils sont tous sales, bizarres, on dirait il va y avoir un meurtre et tout, et comment ils gèrent cette tension en fait. jusqu'à la
Non, mais la façon dont est gérée la tension dans cette scène, c'est fou.
Tu vois, monter, enfin, tout comment est fait le décor, la pression est folle jusqu'à ce que, en fait, ça, finalement, la scène, elle pourrait ne servir à rien, en fait.
Mais, non, mais surtout qu'en plus, cette scène, elle renforce le charisme qu'a Brad Pitt dans ce film.
Ouais.
Et moi, je me souviens, quand j'étais sorti de la salle, j'avais été vraiment marqué par la prestation de Brad Pitt. Je pense que c'est peut-être le film dans lequel je le préfère. Il a un charisme dans ce film qui est incroyable. Et puis, en plus, il est tout en... T'sais, il est un peu nonchalant, c'est un peu un charisme nonchalant,
en
tu vois. Où...
Puis il pète la gueule à Bruce Lee quand même, les mecs. Hein. Enfin, il pète la gueule. Il l'expose contre une bagnole.
Ouais. Il lui pète la gueule quand même.
On peut dire ça comme
ça. Dire.
François... C'est le moment qui m'a fait un peu mal d'ailleurs.
François, une scène qui t'a marqué
Moi, la scène que. Alors bon, j'aime beaucoup dans les Tarantino, mais surtout dans celui-là, chaque scène est un court-métrage un peu. C'est-à-dire que tu peux vraiment. Et c'est pour ça que le film est perturbant, parce que t'as l'impression que les scènes s'enchaînent, mais y a pas... ça va un peu nulle part. Mais tu vois, chaque scène, t'es captivé. Pour moi, la scène qui m'a le plus surpris, c'est la scène où t'es dans le western, donc le western que tourne l'acteur, enfin le DiCaprio qui joue un acteur, et il te joue la scène pratiquement en entier, et tout d'un coup, il se plante. Et là, t'as la caméra qui revient en arrière, t'entends le réal hors champ qui fait « Non mec, c'est pas ça la réplique !» Et il fait « Oh pardon, okay, on l'a refait, putain, on l'a refait !» Et après, il refait le plan, là, et donc, c'est comme si t'avais une sorte de making-of du film, avec DiCaprio qui fait le rôle d'un acteur un peu has-been, un peu en galère, et en même temps qui joue bien, et en même temps qui joue à un acteur qui joue. Et donc là, je me dis, il y a 10 000 couches de méta, quoi.
Ouais.
Et je trouvais ça vraiment fort. Je me dis, et ce qui est fort, c'est qu'il te montre pas le contre-champ. Il te montre pas le réel, en train de se lever et tout. C'est comme si tu voyais un rush d'un plan séquence avec le moment où le plan continue, le moment où l'acteur se plante, on revient en arrière, on refait la même scène. Et là, tu vois l'acteur qui gère la scène. Et je me dis, waouh, c'est fort ça, parce que là, t'es au cinéma dans le sens où tu vois vraiment les vraies coulisses du cinéma, quoi, dans un vrai film, quoi. C'est comme si tu avais le making of d'un faux film en même temps que tout là le film, et en même temps ça développe le personnage. Enfin, il y a tout en même temps, quoi.
J'avoue, en plus c'est vachement nouveau, je trouve. Et il y a aussi un truc que t'as posté il y a pas longtemps sur Twitter qui est aussi nouveau, je trouve, c'est l'utilisation du deepfake que a fait DiCaprio sur notamment la scène de La Grande Évasion, où il fait style qu'il a joué dans Steve McQueen là, genre ça, je trouvais ça fou parce que c'est un truc normalement que tu vois sur YouTube, tu vois, et là le fait de l'utiliser à l'intérieur d'un film pour expliquer un truc. De rôle qu'il a pas fait, enfin tu vois, qu'on sait pas trop si c'est une réalité. Enfin, c'est ça, je trouve.
Mais tu vois,
fort,
à force de parler de ce film depuis tout à l'heure, je me rends compte que, alors déjà, comme tu disais tout à l'heure, Guillaume, il y a plein de moments qui sont amenés à être des moments cultes dans ce film. Et je pense que Once Upon a Time in Hollywood, donc c'est sorti en 2019, on est en 2021. Je pense que c'est le genre de film à qui il faut laisser du temps, et j'ai le sentiment qu'en 2030 ou 2040, on pensera à ce film comme un grand film. Peut-être que là, c'est encore un peu frais. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est le genre de film qui peut encore plus devenir culte avec le temps, j'ai l'impression.
Ouais, je suis d'accord.
Et,
Juste, je ne sais pas si c'est une parenthèse, mais moi, ce qui m'a fait redécouvrir le film, en fait, c'est qu'il y a le livre qui est sorti.
La novélisation.
Et la novélisation par Tarantino. Et donc, je me suis dit, tiens, allez.
Tu l'as lu ?
Et donc, justement, je l'ai lu. Alors, non seulement je l'ai lu, mais je l'ai écouté en version livre audio.
Qui raconte ?
Et c'est Jennifer Jason Leigh qui lit le bouquin, et c'est incroyable. Déjà parce qu'elle est une super narratrice, mais elle joue, elle prend la voix de DiCaprio et la voix de Brad Pitt, et t'as vraiment l'impression de les entendre. Donc déjà, rien de ça au niveau de la forme, c'est incroyable. Et le roman, il est assez surprenant, encore une fois. C'est là où Tarantino, à chaque fois, tu te dis « Ok, je vais avoir plus ou moins les mêmes scènes et tout ». Pas du tout. En gros, le roman, t'as peut-être un quart des scènes du roman qui sont dans le film. Tout le reste, c'est comme des scènes coupées. Ou des scènes alternatives de pendant ce temps-là, il s'est passé ça, pendant que lui, il s'est passé ça. C'est comme s'il il disait aux gens, bon, vous avez vu le film, si vous avez acheté le bouquin, vous avez vu le film, donc je vais pas vous refaire le film. Et du coup, c'est un super complément du film. Je me suis dit, mais c'est incroyable d'avoir été aussi généreux. C'est comme s'il avait mis toute sa documentation qu'il pouvait pas mettre dans le film. Et du coup, le livre est très différent. Il est tellement différent que le livre, à la moitié du livre, il spoil la fin.
Okay.
Genre... tout ce qui se passe à la fin, alors que le film il t'amène à cette histoire de meurtre et tout, etc., de Sharon Tate, au milieu du bouquin, et si on peut spoiler ou pas là ou pas,
Vas-y.
Au milieu du bouquin, il dit, le narrateur dit, et donc plus tard, le personnage, enfin, le Reed Dalton, sauva la vie de machin en tuant des machins, en tuant des hippies qui étaient venus dans sa maison, et c'est comme ça qu'il est devenu connu plus tard. Il te dit ça au milieu du livre, en mode, au fait, ça c'est la fin, vous avez vu le film, on s'en bat les couilles.
Oui, il prend pour acquis que les gens qui achètent le livre ont vu le film.
Et du coup, tu dis, mais du coup, on va où ? C'est après, je me dis, mais c'est toi la... Et en fait, le film, le livre, se termine pas du tout pareil.
Trop bien.
C'est-à-dire, ça va pas là-dedans. Ça ne parle pas de ça, ça parle d'autre chose.
Limite, c'est comme si c'était un 2 au film, quoi.
C'est une sorte de 1 alternatif, parce que, et ça où c'est très fort aussi, c'est que dans le film se termine, en fait le film parle de l'espèce de rédemption de Rick Dalton qui rêve de redevenir un peu sur les devants de la scène et qui rêve de fréquenter les Polanski et Sharon Tate et tout. Et à la fin, par un concours de circonstances, il est invité chez eux et on le voit monter cette colline vers cette maison et on se dit « Ah, il va avoir une nouvelle carrière, il va être redevenir une star ». Et ça se termine là-dessus. Le livre se termine pas du tout là-dessus. Le livre se termine par une scène qui se passe avant dans le film, où il est au téléphone avec justement la petite fille qui est avec qui il a une sorte de discussion et tout. Et en gros, ça se passe la veille de leur scène. Et il est au téléphone avec elle et elle insiste pour qu'ils répètent ensemble. Et lui, il dit mais non, machin.
Je répète pas, moi.
Et du coup, elle dit non, il faut qu'on répète, il faut qu'on soit pro, on est payé pour ça. Et là, en gros, la fille continue à lui faire une sorte de leçon de professionnalisme. Et le film se termine par eux qui répètent et par Rick. Qui réalise à ce moment-là qu'il est quand même heureux dans sa vie, même s'il joue dans une série télé, même s'il n'est pas au cinéma. Et en fait, c'est pas du tout la même note finale, en fait. C'est plutôt un mec qui réalise qu'il était heureux avec ce qu'il avait. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé entre le film et le livre, et je pense, enfin, c'est pas un secret, il le dit, c'est qu'il a eu un enfant entre temps. Et donc, il a écrit ce livre pendant l'année où il a eu son enfant. Et pendant que. Et du coup, c'est comme si lui-même s'était dit, on s'en fout de sa carrière, en fait, au gars. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est le lien qu'il a avec ses petites filles et tout, etc. Et le fait qu'il se rend compte qu'il est heureux comme ça. Mmh. Et c'est fou d'avoir comme un livre qui raconte pas la même chose avec les mêmes persos. Et c'est comme s'il avait fait deux versions de son histoire différentes qui sont complémentaires, en fait.
J'ai envie de le lire.
Mais tu sais que j'étais chaud d'acheter le livre, mais j'avais été très déçu par la... Alors, même si c'est accessoire, mais j'étais très déçu par la couverture de la version française par rapport à la version américaine.
Ah.
La couve de la version américaine, elle est vraiment cool.
Ouais,
et la couve de la version française, c'est juste un... C'est juste rouge avec écrit en noir.
Bah, c'est une jaquette, tu changes.
Mais écoute-le en anglais parce que d'entendre la voix de Jennifer Jason Leigh, t'es dans un Tarantino en fait.
Écoute, j'ai jamais lu un livre, enfin un audiobook. Ouais. Ouais, non, jamais. Ah,
bon, un podcast quoi.
C'est comme un podcast, mais
ouais,
bon, mais franchement, je vous le conseille parce que elle le lit vachement bien et voilà, et c'est vraiment très bien écrit et t'as plein de... Et en plus, alors petit détail, il est dans le livre. En fait, dans cette réalité alternative de Hollywood qu'il a créée. À un moment, il te fait une sorte de flash-forward sur la carrière de la petite fille, justement. Et il dit, cette petite fille a été nominée aux Oscars 20 ans plus tard dans ce film-là. Et il te crée une sorte de carrière alternative. Et il dit, et son dernier rôle au cinéma a été dans le film de Tarantino de 80. Et là, il t'invente un film qu'il n'existe pas.
Oh, c'est marrant.
Qu'il aurait réalisé dans cette réalité alternative. Il dit, ben, en fait, il s'est dit, dans ce monde-là, moi, j'aurais fait ce film-là avec cette actrice que j'aurais reprise en mode, comme il reprend des vieux acteurs et tout. Et il va au bout de son concept de monde alternatif. Et il est dedans, quoi.
Ouais, il pousse l'Uchronie à fond, quoi.
Ouais, complètement. Il y a même son père qui apparaît dedans. J'ai un moment, t'as le personnage de Rick Dalton qui va dans un bar, qui rencontre un musicien. Et le musicien dit, ah, je suis fan de vous. Et après, il dit, ouais, est-ce que je peux avoir un autographe pour mon fils? Il s'appelle Quentin. Il s'est vraiment placé dedans comme un personnage un peu très très lointain.
Ouais, bah du coup, ce que tu es en train de me dire là, c'est qu'on sent que. Et c'est pour ça que je te disais, il aurait pu terminer ce film. Bah, c'est qu'on a l'impression que c'est l'œuvre d'une vie.
Bah complètement. Complètement. Il a même acheté. En fait, le western qui tourne dans le film, c'est un vrai western qui avait été. Qui était une vraie série télé. Enfin, pas le western de Rick Dalton, l'autre western. Mm. Celui qui fait dans le film, pas celui qu'il a fait dans le passé. Bref, je sais pas si c'était très. Celui en couleur, quoi. Et en fait, il s'est pas fait chier. Il a acheté les droits de la série pour pouvoir faire ce qu'il veut des scénarios. Et du coup, dans son livre, t'as des scènes entières. Où c'est des scènes d'épisodes, faux épisodes de ce faux western en fait, qui pourrait être un western légitime.
Mais tu vois, c'est ça que j'aime bien avec ça, c'est que en fait c'est technique et ça te pousse à aller chercher plein de rêves quoi.
Mais en fait, du coup, tu fais que y réfléchir. En fait, c'est que au-delà de l'histoire qu'il propose, qui est finalement une histoire de gens à Hollywood, voilà, tu peux te dire c'est pas très intéressant. Toutes les histoires dans les histoires sont fascinantes et c'est encyclopédique et tout et c'est hyper fort, hyper humain et c'est voilà et c'est sans fin quoi, c'est parce que c'est.
Vous avez tous cité les scènes que j'aurais aimé citer.
Ah.
Et là, finalement, j'aurais voulu parler de la dernière scène, mais je ne vais pas trop spoil. Mais en tout cas, ce que je peux préciser sur la dernière scène, c'est que je me souviens qu'au cinéma, je m'étais dit, ce que je suis en train de voir à l'écran, c'est jouissif.
Ah bah,
et c'est vrai que Tarantino, c'est un des rares à faire ça, des scènes qui sont jouissives à l'écran, tu vois. Et ça, j'avais trouvé ça cool.
Il arrive toujours à trouver des trucs. Non, tu sais pas, je pense dans tous ses films, il a trouvé tous les moyens de buter des gens quand même.
Ouais.
Là, il a réussi à en inventer des nouveaux, le mec. C'est incroyable.
Ouais, c'est vrai.
Alors, dans ce film, il y a un souci du détail assez impressionnant et beaucoup, beaucoup de rêves qui sont lâchés par Tarantino, la plupart issus de ses souvenirs d'enfance. Et pour ses autres films, Tarantino s'est également beaucoup appuyé sur des rêves qu'il a apprises lors de son fameux job dans un vidéoclub lorsqu'il était jeune, n'est-ce pas, Guillaume?
Exact. Et on est en 1983 et le jeune Quentin est alors âgé de 16 ans. ans, il n'est pas passionné par les études, qu'il arrête dès la troisième, et après quelques délits mineurs, il va de petit boulot en petit boulot, notamment ouvreur pour un cinéma porno qui s'appelle le Pussycat. Il vit alors à Hermosa Beach avec sa mère et passe le plus clair de son temps au cinéma. Goût du 7e art qui lui a été inculqué des années plus tôt par son beau-père, un pianiste de piano bar qui le forme à regarder des classiques. C'est à cette époque qu'on nous couvre le vidéoclub Video Archives qui déménage de Manhattan Beach à Hermosa Beach avec pour slogan « Au service du divertissement et de l'éducation de South Bay, 365 jours par an ». Coup de cœur pour Tarantino qui devient évidemment un client assidu jusqu'au jour où les patrons Lance Lawson et Rick Humbert j'imagine, lui propose un job. Ce à quoi il répond, ce serait juste un rêve pour moi. Il décrira ensuite cette période comme le meilleur job qu'il ait jamais eu. Et pour cause, il devient rapidement la star du magasin. Grâce à sa culture et sa verve, la boutique a une ambiance méga détendue et une machine à pop-corn. Et en gros, les clients restent souvent des heures, non pas à choisir des films, mais à manger du pop-corn en se faisant conseiller par Quentin. J'ai regardé des images du vidéoclub, j'ai trop envie d'y aller. Mais évidemment,
ouais, ces images existent sur YouTube et les images sont trop bien.
La petite machine à popcorn, là, ça a l'air trop cool. Dans une interview, Lance Lawson décrit bien le personnage en disant « Les gens rentraient dans la boutique et me demandaient un film obscur. Je pouvais éventuellement leur dire l'année, le réal et peut-être les acteurs principaux. Mais Quentin arrivait et il pouvait en citer le nom des scénaristes, des seconds rôles, des chefs-op, en citant des dialogues par cœur. Et du coup, il devint vite une petite vedette locale parce qu'il raconte que même parfois, il se baladait, il allait au cinéma et les gens étaient là « Oh, c'est le mec de Video Archives et tout, genre. » C'était son début de célébrité, tu vois. Et d'ailleurs, c'est l'article que tu m'as envoyé tout à l'heure où il en parlait dans les cahiers du cinéma, où il conseillait des films qu'on conseille pas d'habitude à Hermosa Beach ou à South Bay.
À des Américains.
À savoir Romer et ce genre de choses, où il disait « Ah ouais, mais les gens, ils étaient intrigués par la jaquette. » Et il leur disait « Non, mais tu vas voir, regarde ça. Et si t'aimes ça, t'aimeras toute la carrière de Romer et tout. » C'était vraiment le spécialiste S-cinéma et cinéma de tous les genres et toutes les époques. Et Tarantino dira à son tour « Quand t'es un geek du cinéma, tu dévoues ton temps et ta vie à des films, mais tu n'as pas grand-chose à offrir en retour, à part ton opinion, et c'est ce que j'offrais aux gens pendant des heures, ma simple opinion. » En effet, il précisera souvent que ce n'est pas chez Video Archive qu'il est devenu un expert en cinéma, mais que justement, il était engagé là-bas parce qu'il était déjà un expert. Sachant qu'il est rentré quand même à 16 piges.
Bon. Chaudard, mais... joli.
Il n'y avait pas Internet en plus.
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'il est considéré comme un cinéphile?
La fameuse question, ouais, je pense que...
Il y a sa photo dans le dictionnaire à côté de cinéphile.
Ouais, je pense clair.
Kiffeur de péloche.
En revanche, n'ayant jamais été au lycée, il dira que son lycée à lui et ses amis de lycée, toute la sociabilisation qu'on peut faire là-bas, c'est à Video Archives qu'il l'a faite. Il dira dans une interview MTV dans laquelle on lui demande un conseil pour les jeunes qui travaillent dans les vidéoclubs, savoir que c'est une question qui n'existe plus maintenant. This is the new film school, so keep it up. Puisqu'en plus d'y travailler, il y fait des heures supplémentaires. Et toute la bande de collègues reste une fois le magasin fermé pour y organiser des festivals du film entre eux, des débats sur les films, des fêtes ou encore des rétrospectives par réalisateurs. C'est tout bonnement une vraie école de cinéma. Il raconte que la plupart du temps, il y bosse la journée, reste le soir, il regarde des films la nuit et comme il embauche le lendemain à 9h, il dort quelques heures par terre dans la section porno parce qu'il y a un rideau et qu'elle est un peu à l'écart et il ouvre la boutique et il précise « L'hygiène n'étant pas mon fort quand j'avais la vingtaine ». Effectivement, il n'y a pas vraiment de douche dans l'emploi du temps, j'ai remarqué. Une équipe soudée, donc, puisque quand Quentin Tarantino décide de prendre la caméra pour son premier film inachevé, il tourne la plupart des scènes chez Video Archive et il travaille avec ses collègues pour un budget de 5 000 $ sur le film My Best Friend's Birthday. Film qui est en réalité une base de scénario pour les personnages de Christian Slater et Rosanna Arquette ensuite dans True Romance, où l'on retrouve aussi le dialogue d'Elvis de Val Kilmer, interprété ici dans la première version par Quentin Tarantino. Vous l'aurez compris, tout part de Video Archive pour Quentin Tarantino, mais aussi pour son collègue Roger Avary, qui va devenir scénariste à Hollywood en commençant par participer à l'écriture de Reservoir Dogs et Pulp Fiction, et aussi True Romance, mais il n'est pas crédité. Reservoir Dogs, premier film à gros succès pour Tarantino, pour lequel il va passer le plus clair de sa promo chez Video Archives, encore une fois, en y organisant des séances de dédicaces, des interviews.
Oui, d'ailleurs, je crois que c'était avec Tim Roth, si je ne dis pas bêtise. Il y a des photos qui existent sur Google où on le voit à Video Archives en train de promouvoir le film avec Tim Roth.
Et surtout, ce qu'il disait, c'est que ça a été, Video Archives, ça a été le... genre la plus grosse promo du film Reservoir Dogs dans tout South Bay, parce que genre à l'époque du film, ils diffusaient les interviews de Quentin Tarantino sur les écrans, tous les mecs ils avaient des t-shirts Reservoir Dogs, ils mettaient le film en avant, etc. Ils étaient méga trop fiers de lui, tu vois. Et du coup, comme lui il a un attachement tout particulier à ça, il a fait toute sa promo là-bas, et il est quand même resté 5 ans derrière son comptoir là-bas. Et j'aimerais terminer sur une vidéo promo disponible sur YouTube où pour la promo de Reservoir Dogs, il revient chez Video Archive pour sélectionner les 3 films qui l'emmèneraient sur une île déserte.
Rio Bravo.
À savoir Blowout, de Brian De Palma, qui est pour lui le meilleur réalisateur de sa génération.
Voilà.
Rio Bravo de Howard Hawks, qui est un des meilleurs films jamais faits. Et ensuite, très surprenant, puisque il fait, et maintenant on va aller dans la section Laserdisc. il va dans la section Laserdisc. Je me suis dit, mais pourquoi il va dans la Laserdisc? Tu sais, il a toutes les VHS et il va dans les Laserdisc. Pour les jeunes, les Laserdisc, ça n'existe plus. C'est même pas la peine qu'on vous explique.
Gros CD.
Ouais, c'était des gros CD avec des films.
Des belles pochettes.
Et donc, il prend le Laserdisc de Taxi Driver de Martin Scorsese, okay, qui est pour lui un des plus grands films de tous les temps. Ça vous donne un aperçu des conseils qu'il vous aurait donné à l'époque si vous étiez rentré chez Video Archives dans les années 80 à Hermosa Beach pour manger un saut de popcorn.
Super chronique, bravo.
Ah, merci.
Et tu sais que là, je repensais à un truc quand tu disais, c'est-à-dire que les mecs qui géraient le vidéo club, ils ont engagé et Tarantino et Avary.
Ouais.
Très bon recruteur.
Ouais, ils sont très chauds. Ah, c'est marrant parce que je lisais un mec qui a un blog, je suis tombé sur un article d'un mec qui disait Farewell Video Archives, et donc il expliquait juste que lui, il adorait aller là-bas, etc. Et donc il parle évidemment de Tarantino, et il dit que Tarantino, à l'époque, il l'a servi et tout, et que, bah, effectivement, lui, il l'appelait juste le mec de Video Archives, il savait même pas que c'était que son nom, tu vois. Et il disait qu'il avait conseillé des films à lui, à sa mère, et qu'à chaque fois il se disait, en fait, le plus marrant, c'est même pas les films qu'il nous conseille, c'est juste les conseils qu'il nous donne. Genre, on restait deux heures à l'écouter, on était là, ah, il est trop bien ce mec et tout. Et donc, on y retournait souvent. Et c'est genre, après, il a vu, après, il a changé de quartier, je sais pas quoi, il allait plus à Video Archives, et il disait, et là, je vois un film qui sort, Reservoir Dogs et tout, et les mecs, ils me disent, ah, mais je crois que c'est un mec de Video Archives qui l'a réalisé et tout ça. Et direct, j'étais là, mais non, mais c'est lui et tout. Tu sais, pour lui, c'était fou. Mais en fait, c'est clair que maintenant, quand on raconte l'histoire, on se dit, ouais, c'était Quentin Tarantino. Mais quand tu te dis, putain, mais attends, mais c'est le vendeur, ouais, attends, mais c'est le vendeur d'à côté là qui est sur le plateau, tu sais.
Comme si un jour ton boucher fait un Star Wars. Ouais, tu vois.
Mais attends, mais là il est sur le tapis rouge, je trouve, c'est incroyable.
Enfin, non, voilà, et puis surtout ceux qui ont un souvenir de discussion avec Tarantino quand il bossait au Vidéo Club, c'est très précieux comme souvenir.
Ouais, c'est clair. Mais après, quand t'es, je pense que, bah, évidemment, on connaît pas la liste de tous ses collègues de l'époque, mais quand t'es son collègue à l'époque et que le soir tu te fais des soirées où il ferme la boutique,
quel souvenir,
fait un festival de films et tout,
incroyable
dans le truc.
Souvenir.
Trop bien.
Est-ce que justement vous avez des souvenirs de vidéo club comme ça, François?
Bah moi,
t'es né en quelle année?
Je suis né en 85, donc,
ouais, donc
j'ai fréquenté beaucoup de vidéo club, et j'ai eu aussi la chance de faire mon stage de troisième dans un vidéo club.
Trop bien.
C'était un peu genre, on m'a dit, où est-ce que tu aimerais passer trois, enfin je crois c'est une semaine ou deux semaines en troisième pour faire un stage d'entreprise. J'ai fait un vidéo club. Et c'était génial.
Et c'était lequel alors? C'était où?
C'était à Saint-Mandé. Il s'appelait Vidéo Paradiso.
Ok.
Évidemment.
Il y a toujours des bons noms, je trouve.
Et c'était génial parce que je passais ma journée à regarder des films.
Trop bien.
À les ranger vite. Et encore, je pouvais même pas les ranger parce qu'il fallait quand même que ce soit le vrai vendeur. Tu dis non, il y a un ordre précis, machin. Et je me rappelle le soir, un jour, il y a une petite fille qui arrive dans le magasin avec un DVD. Et tu fais, oui, bonjour, c'est pour vous dire, je vous avais demandé, je sais plus, je crois que c'était La Belle et la Bête. Et en fait, c'est un porno. Et le mec, il fait, oh, pardon. Et donc, le mec, il change le DVD parce qu'à l'époque, sur les DVD, il n'y avait pas forcément les noms, en fait.
Ouais.
C'était des DVD, il n'y avait rien dessus. Juste un numéro, quoi. Il fait, oh, pardon. Je fais, oh là là, super, le gars, il donne des pornos à des enfants. Et le soir, il me dit, vas-y, tu veux prendre un DVD, fais-toi plaisir. Et moi, je voulais voir Les Affranchis de Scorsese. Je fais, ok, je vais prendre Les Affranchis. Il fait, pas de problème. Je prends le DVD, je fais deux pas dans la rue, je fais, faut que je vérifie quand même. Et là, je joue le truc.
C'est quoi ce délire?
Et je vois un nom et je fais, c'est pas possible, c'est pas le bon film. Et je dis, écoute, je crois que c'est un porno. Et il me fait quoi? Bah regarde, il m'a marqué Goodfellas. Et en fait, c'est le titre du film.
Ah bah oui, c'est vrai.
Tu vois,
ah,
mais
oui.
Du coup, j'étais persuadé c'était un porno. Il fait, non, mais
oh, je crois, on se fait là.
Voilà. je crois, et là, on l'a mis et j'ai fait, ah non, c'est vraiment Les Affranchis, ça s'appelle Goodfellas.
Bon, Goodfellation.
Autant pour moi.
C'est marrant parce que, alors je sais plus si tu l'avais déjà raconté dans le podcast, mais quand je bossais dans un vidéoclub à Montréal, il y avait un jour un mec qui arrive. Alors, à chaque fois, notre boss, il nous disait, faites payer les retards. Et c'était hyper gênant de le faire à chaque fois parce qu'on était là, genre, vas-y, paye les retards. On se faisait engueuler par les clients et tout. Donc c'était un peu relou. Mais, un jour, il y a un type qui a vraiment, vraiment beaucoup de retard. En général, moi, ce que je faisais, c'est que les clients que j'aimais bien, je leur effaçais leur retard. Et tu sais, ils devaient, je sais pas, peut-être 20€ au vidéoclub. Et je leur disais, vas-y, c'est un instant entre nous, tu fais pas les 20€, etc. Tu vois. Et un jour, il y a un type qui arrive et tout. Et lui, il avait quand même 150€ de retard, un truc comme ça. Donc j'étais obligé, j'étais obligé de lui dire un truc, tu vois. Et c'était que des retards sur des pornos, pratiquement. Et il arrive et tout au comptoir, et il est avec une meuf, et il y a un truc où on sent que c'est une nouvelle meuf, tu vois. Ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Je sais pas, dans la façon d'être avec lui, avec elle, etc. Machin. Et là, je lui dis, voilà, monsieur, vous avez des retards et tout. Et en fait, il me parle hyper mal. Tu sais, il me parle vraiment comme une merde. Il fait, mais attends, mais quoi, qu'est-ce que tu me racontes des retards? Enfin, je me souviens qu'il me parlait comme une merde. Et là, je dis, bah non, mais ce serait bien de les payer, parce que sinon, je peux pas vous faire louer le film et tout. C'est un peu la règle qu'on a ici, donc faut vraiment payer les retards si vous voulez louer ce film ce soir. Il commence à me chier dessus, vraiment à mal me parler et tout. Et à force de me chier dessus, il me fait, ouais, bah pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de retard et tout, tu vois. Et là, je lui lis à haute voix toutes les noms des films. Mais c'était des noms horribles, tu vois. Genre, double anal, pour se dire, tout comme ça, tu vois. Et du coup, là, il fait, oui, non, mais oui, effectivement, oui, j'ai payé les retards et tout. Et en fait, je m'en souviens toute ma vie, il loue son film, finalement, il paye les retards, et il passe derrière la caisse, derrière moi, et il y a sa meuf qui dit, attends, c'est quoi ces films? Et il commence à m'engueuler et tout, tu vois. Et donc, ça l'affaire pour lui.
Voilà. Ah, il t'a brisé un coup, peut-être.
Ah, peut-être. T'as quoi comme souvenir de Vidéoclub, Guillaume?
Moi, mes parents, ils ne voulaient pas trop au Vidéoclub, mais j'étais tout le temps au Vidéo. En fait, ils allaient. Tous les samedis, on allait à Carrefour Ivry, figurez-vous.
Ah ouais?
Eh ouais, dans le centre commercial. Et à chaque fois qu'ils étaient à la caisse, la porte d'entrée d'en face, c'était un Vidéoclub. Et du coup, à chaque fois qu'ils mettaient les courses dans les caddies, moi, j'allais. Je profitais pour regarder le Vidéoclub là-bas. Et surtout, non, mes souvenirs de Vidéoclub de location, c'était plutôt. Très obscur vidéoclub à Guéret, figurez-vous.
En Creuse.
En Creuse, dans la Creuse. Puisque quand j'étais adolescent, eh bien voilà, je passais mes vacances en Creuse et avec mes potes, on allait louer. C'est un gars qui louait des vidéos, des VHS, des pornos, des jeux vidéo.
Attends, mais donc tout. C'était un particulier, c'était pas un vidéoclub?
Non, c'est un vidéoclub qui avait pignon sur rue.
Ok.
Mais je sais même pas s'il y avait écrit vidéoclub. Dans ma tente, il y avait une porte et c'est tout. Il y avait juste des trucs.
C'est les premiers vidéoclubs, parfois on le voit sur les vidéos de Lina, c'était un bar tabac.
Oui, oui,
et dans
oui,
le bar
oui.
Tabac, t'avais quelques cassettes que tu
pouvais
louer.
Non, mais là, c'était genre un truc. Le mec, je sais qu'il louait des jeux vidéo, puis il louait aussi des DVD, etc. Et en fait, on se louait tout le temps les pires. Nous, on y allait que pour les trucs d'horreur, et on se louait tout le temps les pires trucs et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai vu des méga films super bien, genre Bloodfist, Ratman, et tous ces trucs affreusement nuls. Okay. Et c'est ça mes souvenirs, plutôt des films d'horreur en vrai.
D'accord, Aurélien.
Moi, je me souviens d'un énorme truc, en fait, dans les années 90 à Orléans. Genre, ça s'appelait Vidéorama, je crois. Et c'était, mais vraiment, c'était un supermarché, le truc. Il y en avait partout. Je me rappelle qu'il y avait une sélection à un moment, et c'était des cassettes vidéo. Pour le coup, t'avais des cassettes vidéo, et
Tom,
je me rappelle.
T'as quel
que...
âge?
Ah, je rigole. Moi, je suis vieux. Et, et en fait, je me rappelle qu'il y avait une jaquette devant, et en fait, fallait prendre celle qui était derrière.
Ah oui,
si elle était pleine ou pas, tu vois. Ah, donc, oui. tu laisses toujours la jaquette, mais en fait, tu prends celle derrière où il n'y a pas de jaquette, il y a juste la cassette. Et si elle est là derrière, c'est bon, tu peux le prendre. Sinon, et donc, il y avait les nouveautés. Tu te battais pour arriver le jeudi à pas trop tard pour pouvoir avoir la nouveauté. Sinon, il n'y en avait plus, tu vois. Et je me souviens d'avoir vu, par exemple, tous les, Il était une fois en Chine.
Ah oui,
dans ce, okay, ouais. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait tout, il y avait un truc qui s'appelait Hong Kong et il y avait, il mélangeait un peu tout, c'était cinéma asiatique, c'était justement après Tarantino et tout, il y avait tout un moment où
même avec
Christopher
Gantz
et tout, voilà, donc c'était full John Woo, full Ringo Lam, je me rappelle me taper Tsu Let's Work, et découvrir comme ça en fait, en cassette vidéo, tous ces trucs-là, tu vois. Donc c'était vraiment, vraiment charmé.
Moi je me souviens quand j'étais petit, le vidéoclub dans lequel j'allais tout le temps, parce qu'il y avait une sorte de rituel dans ma famille où tous les vendredis soirs avec ma mère, on allait au vidéoclub, eux choisissaient deux films, et moi j'avais le droit de choisir un film. Et c'était un peu les trois films qu'on regardait le week-end, si j'avais le droit de regarder les films des grands. Et je me souviens que ce qui était cool, c'est que ce vidéoclub avait été fait, donc le mec qui avait ce vidéoclub, il l'avait décoré et il l'avait construit pour que ça ressemble à un saloon. Donc en fait, il y avait marqué vidéoclub, je me souviens plus vraiment du nom exact, mais c'était avec une écriture typo western. Et en fait, quand tu rentrais dans le saloon, c'était des portes battantes comme ça, comme quand tu rentres dans un saloon, et tout à l'intérieur était un peu comme dans un saloon. Et je sais pas, ça c'est un truc qui avait marqué... Et aujourd'hui, c'est devenu un Domino Pizza, je crois, ou un kebab,
mais
je sais plus.
Quand on en parle comme ça, je me dis, tu sais, les nouvelles générations, je trouve ça tellement archaïque, tu vois.
Ouais.
C'est genre, c'est fou quoi. En fait, maintenant, ça paraît tellement absurde.
Un lieu physique avec.
Ouais, mais
un lieu.
Tu vois, on en parlait. Bah justement, hier, on tournait un truc avec Guillaume et on en parlait. Et en fait, on se disait que le nouveau vidéoclub, c'était la VOD quoi. Tu loues toi un peu, François, parce que nous, on loue beaucoup avec Guillaume. Par exemple, louer des films d'€99 en VOD quand on les trouve pas ailleurs.
Oui, quand. En fait, maintenant, en plus, t'as sur Apple TV, tu tapes le nom du film, tu vois s'il est sous une plateforme.
Exactement.
Ou si tu dois le louer.
C'est très pratique.
Ils ont ça sur Allociné aussi.
Ah ouais?
Ouais, ils disent s'il est au VOD, ils disent où il est, etc.
C'est un truc, à chaque fois j'oublie, mais c'est un truc qu'il faut que je fasse pour ce podcast. Parce qu'il y a plein de gens, je vois, qui me disent, ouais, vous parlez de films, etc., mais vous nous dites pas s'ils sont dispo. Après, je sais pas si, enfin, c'est relou parce qu'il faut aller chercher. Franchement, c'est un travail qui est relou. Vous m'écoutez là, mais c'est un peu relou de faire ça. Mais non, mais en général, tu tapes le nom sur Google, le titre du film. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui me demandent en DM à chaque fois, vous tapez le titre du film, par exemple, Once Upon a Time in Hollywood. Et en général, sur Google, ça vous dit où il est dispo. En général, soit c'est sur Netflix, ou alors en VOD, en général, ça le dit. Ça m'évite de chercher, merci.
Est-ce qu'il y aura des gens qui se diront dans 30 ans, ils font, tu te souviens, alors t'as des souvenirs de la VOD?
Ah ouais,
tu te rappelles quand tu devais taper manuellement? Alors maintenant,
mais
tu
du
penses
coup, c'est
au film,
sur les mêmes souvenirs. Sur les souvenirs, genre, j'étais dans mon canapé, et j'ai appuyé sur OK, quoi.
C'était vachement bien, le décor.
J'ai appuyé sur OK, et puis voilà.
J'ai fait une déco saloon, bon.
J'ai un autre souvenir de vidéoclub assez particulier, parce que quand j'étais ado, j'ai vécu en Afrique. Parce que mon père était médecin militaire.
Hey, je me souviens, tu m'avais raconté cette anecdote, j'avais trouvé ça très aventurier. Où ça, en Afrique?
En Mauritanie.
Ok, cool.
Donc à Nouakchott, donc vraiment à la frontière du désert du Sahara, quoi. Donc rien. Donc pas de cinéma. Et pour un cinéphile, c'était très terrible pour moi. J'étais vraiment en dépression à 12 ans de plus aller au cinéma et tout. Mais il y avait un vidéoclub de films complètement piratés qui venaient du Canada, enfin du Québec. Et c'était vraiment des films filmés dans des salles. Donc, en gros,
des bootleggers.
Des bootleggers. Tu payais vraiment dans un vidéoclub officiel de Mauritanie. Et on te dit, bah, tu veux voir, je sais pas, le Titanic qui venait de sortir. Ok, pas de problème. Et vraiment, et c'est des films qui étaient au cinéma en France, filmés au caméscope. Donc t'imagines, filmé au caméscope sur VHS, avec des têtes de gens au premier rang et tout. Et tu payais les gens pour voir ça.
C'est drôle, payer, c'est génial.
Mais c'était la seule chose que je pouvais avoir. Et c'était drôle. C'était...
Mais t'arrivais à te mettre dans le film quand même. T'arrivais
franchement,
à...
quand c'était un bon film, t'oubliais tout.
Ah ouais.
Je me rappelle avoir vu Contact comme ça.
Okay.
Et j'ai été happé par le film alors qu'il était en qualité pourrave, tellement que le film me parlait.
Okay,
mais ce qui était marrant, c'était les titres, parce que comme c'était des versions québécoises, et ben, il y avait pas Pulp Fiction,
bah oui.
Il y avait Fiction Pulpeuse. Il y avait pas Speed, il y avait Clanche.
Non, mais je les connais tous. Hein. Voilà, voilà. Je bossais dans un vidéoclub à Montréal, donc je les connais vraiment tous.
Et par
je
la crois peau que... des dents.
Attends, c'est lequel celui-là?
C'est je veux dire, je Meurtre, tous, machin, un suspense, un truc. Mais des titres improbables, et du coup, il fallait les décoder et dire, ok, ça c'est ça. Le...
Bagarreur de rue.
Bagarreur de rue, bien sûr. Ah,
mon préféré, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, parce que ça a vraiment rien à voir, c'est Du soleil plein la tête. Ça, c'est vraiment aucun rapport.
On me dirait qu'en plus, ça a l'air cool comme film.
Alors,
non,
c'est
trop défrancé.
Non, ouais. ça colle vraiment pas avec le film. Enfin bref. Écoutez, dans les récents podcasts, Guillaume Aurélien m'avait dit, bah, y a pas de jeu.
Bah alors,
y a pas de jeu. Et ben là, y a un jeu.
Ah,
si, bah, tu veux faire plaisir.
Oui, voilà. Le jeu.
J'ai appelé ça le quiz Uchronie.
Ah, j'adore.
Ah.
Alors
ça, c'est ma cam.
Once Upon a Time in Hollywood est ce qu'on appelle une uchronie. Pour ceux et celles qui l'ignorent, une uchronie, c'est raconter une histoire réelle basée sur des faits historiques et la modifier en y ajoutant de la fiction. Exemple. Historiquement et dans la vraie vie, j'ai toujours défoncé Guillaume à Mario Kart.
Oh, non,
c'est comme s'il écrivait un film qui raconte ça, mais qu'il ajoute de la fiction, imaginons qu'il me bat. À la
je
fin.
Vais prendre les feuilles en photo. De toute façon, je ne peux pas mentir, toutes les feuilles, c'est tout écrit. Tout écrit.
Enfin,
tout
cas, avec cet exemple Mario Kart, tout on a résultat. Compris ce qu'était une uchronie. Et on parlait justement de l'exemple Sharon Tate. Bah voilà, Sharon Tate, c'est l'uchronie du film, sans trop spoiler, mais on a un peu spoilé quand même.
On a complètement spoilé.
Donc on va faire un petit jeu. J'ai ici une liste de films uchroniques et vous allez devoir deviner en premier de quel film je parle, ok?
Oui.
Premier qui répond, premier qui a bon, a un point. François, t'es chaud un peu en quiz ou pas?
Oui.
Très bien. Bah, déjà, il regardait des films pirates en Mauritanie. Ouais,
voilà.
Il est très chaud.
Défoncé, c'est sûr.
Très bien. Premier film, Uchronique. C'est un film sorti en 2009, film avec un gros casting. Uchronique, car il raconte un événement, à savoir la Seconde Guerre mondiale, tout en le modifiant de façon jouissive. Le casting est américain, mais aussi français. Ah oui, c'est là, c'est le Spaster. Bah écoutez, bah fallait le dire, Guillaume. Regardez-moi ce mauvais joueur au fond, là, bah fallait le dire.
Il y a Hitler, il est mort.
Le casting est américain, mais aussi français, avec des acteurs comme Léa Seydoux ou encore Denis Ménochet. Film d'un réalisateur qui est à l'honneur aujourd'hui dans ce podcast, Inglourious Basterds. On commence tranquillement. On commence tranquillement. N'hésitez pas à balancer une réponse quand vous l'avez.
Merci.
1-0. Notre deuxième film est un film sorti dans les années 80. C'est une uchronie car il modifie légèrement l'histoire, en l'occurrence les années 50. Notre héros est un
Retour
héros...
Retour à le futur.
Oh, c'est là-bas voilà. C'est Retour à le futur, bien sûr. Mais notre héros est...
En quoi
c'est le
2
qui est une uchronie?
Bah, je vais vous le dire en quoi. Ah. Notre héros est un héros culte de l'histoire du cinéma qui, malgré lui, va modifier le cours de l'histoire et essayer de réparer les dégâts.
Ah, alors c'est Retour à le futur 2, alors.
Ah non, le 1. Parce que dans le 1, il va dans les années 50 et il modifie les vraies années 50. Donc c'est une uchronie. Et
alors mais qu'est-ce qu'il modifie?
Il modifie le destin de ses parents.
Oui, mais il modifie pas un fait historique. Il modifie une fiction. Bah,
techniquement, ça peut être Chuck un fait historique. Ah, Chuck Berry, bah oui.
Alors Chuck Berry, oui.
L'invention du rock'n'roll.
Ah oui, l'invention du rock'n'roll.
C'est le truc le plus historique du film.
Ouais. François, c'est un point pour Guillaume, je suis désolé. C'est Retour et le futur, très bien. Troisième film, tu peux te refaire parce qu'il y en a quelques-uns. Là, il y a 1-1-0, tu peux te refaire. Troisième film désormais, alors ce film est bourré d'uchronie, il en est bourré. C'est d'ailleurs un peu le but même du film.
La grande vadrouille.
Ah, mais attention, je peux faire l'élimination.
C'était une blague, c'était juste une blague.
Attention à l'élimination s'il y en a trop.
Ok, je faisais une blague.
Alors ce film est bourré d'uchronie, film culte s'il en est, réalisé en 1994. Je raconte l'histoire d'un héros qui n'est pas destiné à en être un. Vous l'avez tous vu et revu, et je suis certain que...
Forrest Gump.
Oh, c'est là.
Ah oui, ah, oui, ah, oui,
ah,
oui,
c'est là. Il est chaud là-bas, il est très chaud au fond.
Mais...
Attends, c'est pas une uchronie parce que non mais si c'est une uchronie parce que
bah attends il rencontre John Lennon et tout attends
oui
mais,
si
puis il s'insère dans des trucs de oui
il rencontre Kennedy à chaque fois il
valide le point c'est bon.
D'ailleurs c'est le début du deepfake ça
en fait c'est la VAR
oui,
François
je disais tout à l'heure avec Rick Dalton et tout mais là c'est le deepfake 100%
il a manipulé des images.
Alors celui-là est un peu plus technique. Film réalisé en 1993 par Marco Brembilla. Réalisateur qui nous a donc offert ce film culte et qui après n'a plus rien fait. Enfin, C'est assez étrange parce qu'il a juste réalisé la mini-série Dinotopia. Puis après, plus rien.
Ah. Ok, ok.
Ce film, donc, est un blockbuster des années 90.
Demolition Man.
Oh là là, c'est... Oh, ça, c'est
non,
bon, ça.
Non, non,
ah, là, mais ça, c'est
non,
bon,
non,
ça.
Non,
et qu'ils le sortent maintenant, là, c'est incroyable. Mais attends, mais comment t'es sûr? Alors, Marco Brambilla.
Ouais, ouais, ouais.
Oh, joli, parce que Marco Brambilla, c'est beau de le sortir là-dessus.
Putain.
Incroyable.
Bien vu, bien vu.
Mais par contre, là, c'est marrant, tu dis pas que c'est pas. Ah bah, si, il l'a dit quand même.
Mais non, mais pourquoi?
C'est une chronique.
Oui, donc après, je sais, ce film est donc un blockbuster incroyable. Film qui se
situe. Je m'enlève le point.
Attends,
ouais, enlève-toi le point.
Film qui se situe dans un passé bien sale, mais aussi dans un futur très aseptisé où toute forme de violence n'existe plus. Dire de gros mots, nous vaut même une amende. À mon casting, je compte Wesley Snipes et Sylvester Stallone. Je suis Demolition Man. C'est une uchronie dans la mesure où ça prend il me gêne avec la barre comme ça. Non, mais ça prend le passé, ça prend le présent, et en gros, ça imagine un futur en fonction de notre présent et de notre passé. C'est une uchronie.
Ouais.
Ah si, c'est une uchronie.
Dans les commentaires Twitter, ils vont être là.
C'est pas une uchronie parce que.
Alors, je veux dire pourquoi
c'est. Ils vont.
Je vais vous dire pourquoi c'est une uchronie, parce que je suis allé sur le site de IndieWire, qui est un site que j'aime beaucoup.
Ils ont fait un top 10 des uchronies.
Et ils ont parlé de ce film comme étant un film référence de film uchronique. Si IndieWire le dit, c'est que c'est vrai. Je suis désolé.
En gros, si les gens se plaignent, il faut qu'ils aillent sur IndieWire.
Exactement, voilà. Très bien.
Ça me fait du mal parce que pendant des années et des années, j'ai eu la carte postale de Demolition Man au-dessus de mon bureau. L'affiche donc. Et du coup, j'ai jamais retenu le nom de du réel qui est écrit sur l'affiche. Quoi. C'est insupportable.
Eh bah oui, bah tu vois.
Que tu l'as dit rend le truc encore plus compliqué. Parce que
c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Vite, t'as un accent italien parfait.
Voilà.
En plus. Ok. Alors, maintenant, j'ai peur que François, pour le prochain, dise.
La prochaine
c'est
film,
pas
en fait,
vraiment une uchronie.
C'est pas une uchronie.
Bon, par contre, on a combien? On a deux pour Guillaume, un pour François, un pour Aurélien. C'est très serré.
Allez.
Ça, c'est. Et je tiens à dire qu'il en reste 1, 2 et 3.
Ah.
Il en reste 3 seulement. Film français cette fois.
Les Visiteurs.
C'est non.
Oh non,
mais attention, il n'y a pas d'élimination. Il n'y a pas d'élimination. Tu peux revenir dans le jeu, mais attention quand même. Film français cette fois, car il faut bien un film français dans ce quiz. Film sorti en 2006 qui a eu son petit succès. Je raconte une France privée du jour au lendemain de l'une de ses plus grandes icônes.
Jean-Philippe, putain, Jean-Philippe.
Oh, Jean-Philippe, là. Attends, qui l'a dit? Attends,
c'est moi
là.
Qui
a dit? On me montre du doigt Guillaume. On me montre du doigt Guillaume là-bas.
Je pense que s'il y avait un replay, ouais. Je pense que si on était
en audio. De toute façon, on va l'entendre si
en
audio.
Non, mais par contre, c'est chaud parce que vous étiez tous en train de dire Jean. Bon, bah,
c'est
Jean. Dites Jean-Philippe.
C'est
qui? Ninon. Alors, Ninon me dit que c'est François et Timothée me dit que c'est Guillaume.
On prend un point chacun.
Bien, c'est un point chacun.
Et là, c'est une uchronie.
C'est un point chacun. Donc, on a 3 pour Guillaume, 2 pour François et 1 pour Aurélien. Guillaume est en tête. T'es content d'être en tête?
J'avais Jean.
J'ai peur quand même.
Oui, donc.
J'avais Jean Smet, frère. J'étais perdu.
Jean Smet.
Et dans ce film, le fan numéro 1 de cette icône va tout faire pour le réhabiliter, lui faire comprendre qu'il peut devenir une immense star. Au casting, je compte Fabrice Lucchini, je suis Jean-Philippe. C'est cool, Jean-Philippe, non? On aime bien ce film ici ou
pas? Franchement, il est cool.
C'est pas mal, moi, je trouve.
Moi, j'avais bien vu
le concept,
j'ai
bien kiffé.
Ouais, c'est cool. D'ailleurs, ça a été refait un peu avec Yesterday et les Beatles. Finalement, c'est un peu Jean-Philippe. Ah
bah, pas tout à fait, parce que.
J'ai pas vu Yesterday.
Dedans, Johnny, il joue Jean-Philippe Smet, en fait. Mmh. Et il essaye de lui dire, genre, bah, tu t'es Johnny, mec, deviens Johnny.
Ah oui,
il
n'y a pas les Beatles.
Il n'y a pas ça du tout dans les Beatles. Okay, ouais, ils sont pas là.
Après, c'était chaud d'avoir les Beatles comme acteurs.
Je pense, ouais, ils sont morts déjà. Enfin, il y en a déjà un qui n'est pas là, donc.
Très bien, le prochain, c'est serré, hein. 3 pour Guillaume, 2 pour François, 1 pour Aurélien. Film produit en... Vous voyez pas, mais Guillaume est très stressé là-bas, il est très concentré. Film produit en 2009 par Paramount et Warner, voici mon casting. Patrick Wilson, Billy Crudup, Jackie Earle Haley ou encore Carla Gugino. Oh, Watchmen, ouais. Il égalise, il égalise en beauté. On est d'accord que c'est une uchronie, François. Bah oui, tout à fait, c'est une uchronie, ouais. Watchmen.
Pas sûr de ça.
Oui, t'es pas sûr, Guillaume?
À vérifier.
En fait, c'est simple, la méthode, c'est dès que tu perds...
Ça, non, mais j'ai compris ta technique,
oui,
François.
Bien sûr,
j'ai bien compris, oui. Bon, écoutez.
C'est l'uchronie de quoi?
Là, on a 3.
1, ouais, je me suis fait avoir.
3-1.
Bon,
du coup, Aurélien, je suis au regret de te dire que pour cette finale, tu ne peux
c'est
plus jouer.
Bah, okay, bah,
tu peux plus jouer.
Ah, mais il n'y a pas le kit ou double.
Bah, non, c'est pas ça. C'est que comme tout Aurélien, quand il arrive, ne peut pas gagner, ça fait 3-3. Ça va se décider entre vous de le prochain.
J'ai la pression, en fait.
Bah oui, t'as la pression, mais c'est le grand point vainqueur. 5000 euros en jeu pour ce point final.
Et le perdant donne 5000 euros à l'autre.
Ah, d'accord. Alors, donc Aurélien, même si tu sais, il y a des chances que tu saches.
Je dis rien.
Bah ouais, mais.
Écoute, moi quand même.
Fallait pas dire Jean Smet.
Je suis nul.
Jean Smet. Alors, point final, grosse tension. Guillaume ferme les yeux, il est très concentré. Le dernier est technique. Parce que c'est pas un film.
C'est pas une chronique.
C'est un livre puis une série. Celui qui trouve juste avec
le
ça.
Le maître du château.
Oh, bon, allez.
Du coup.
Oh là là, c'est François qui l'a emporté, c'est incroyable. incroyable. Il ne lui a même pas laissé le temps.
C'est plus connu.
J'ai dit celui. J'ai dit c'est un livre puis une série. Celui qui trouve juste avec ça est chaud. Et il est chaud parce qu'il a dit.
Le maître du haut château.
Le maître du haut château.
Je sais même pas ce que c'est.
Ah oui,
je ne pouvais pas gagner.
Bravo François, le maître du haut château c'est super. Tiens, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est le maître du haut château François?
Alors j'ai que lu le livre, j'ai pas vu la série.
Très bien. Mais le livre est mieux que la série, je trouve.
Oui, c'est mieux. Ouais.
Mais c'est en fait c'est un peu le cas d'école de l'Uchronie puisque ça prend le côté et si les nazis avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement. Voilà.
Avec les Japonais.
En fait c'est et si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait on vit dans un monde où les États-Unis sont partagés côte est par l'Empire du Japon et côte ouest par le Troisième Reich.
L'inverse.
Et, oui, l'inverse, pardon. Et en gros, ce qui se dit, c'est que il y a une rumeur qui court qu'un type écrira un livre qui imagine comment aurait été le monde si les nazis avaient perdu. Et finalement, c'est très facile à imaginer ce livre parce que c'est notre monde actuel. Et bien évidemment, comme c'est un monde, comme c'est une dictature totale, on n'a pas le droit d'écrire ce livre, etc. Et voilà. Et en fait, c'est un peu l'idée du livre. Et c'est imaginé par Philippe K. Dick, à qui on doit Total Recall ou encore Blade Runner. Donc c'est quand même du très lourd. Et c'est vrai que le maître du haut château, c'est super. Hein,
ouais, franchement, il est super. Je l'ai lu trop jeune, je pense.
Okay.
Je l'ai lu tellement jeune que je me rappelle qu'il se passait pas grand chose. C'était
là,
fascinant.
Il n'y a pas de fin en plus.
Ouais, voilà, c'est ouais, et je suis curieux de peut-être le relire un jour et puis de voir la série parce qu'ils ont fait quand même 3 saisons. Donc je me dis, ça doit être.
Ouais, ils ont tiré. Moi, je peux te dire, j'ai vu la série, ils ont quand même bien tiré les trucs. Ouais. Okay.
Enfin, Guillaume, un peu du
c'est
film.
Bien. Non, c'est passé parce qu'on avait dit des films, moi. Non, mais c'est comme vous voulez. Bon, après, c'est.
Oh la vare.
Non, mais j'étais obligé de le placer parce que c'est vraiment quand on parle du chronique, c'est ce qui revient en premier.
C'est la première.
Bon, bah, François a gagné.
Oui, fair play.
Mais François a gagné avec des petites méthodes qui consistent à dire non, pourquoi ils ont gagné les autres. Je t'ai vu, François, attention.
On se rappellera de Jean Smet.
Jean Smet.
Aurélien, on parlait donc d'Uchronie à l'instant à travers ce quiz, et Once Upon a Time in Hollywood est en plein dedans, puisque ce film aborde l'histoire de Sharon Tate, femme de Polanski à l'époque, et sauvagement assassinée alors qu'elle était enceinte du réalisateur. Ça, on ne le voit pas dans le film. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cet horrible événement qui a marqué l'Amérique?
Eh bah, ben, ça va être beaucoup moins drôle pour le coup, ce que je vais vous raconter.
J'attends en d'ailleurs à ce que ce soit très drôle, cette
fois. Ouais, bah, c'est mort. Clairement, c'est mort. J'ai
on va
traiter la question.
Musique derrière.
C'est impossible d'être drôle avec ce qui s'est passé. Vraiment, c'est horrible. Alors, j'ai deux façons de vous raconter. C'est vous qui allez choisir, parce que c'est comme ça qu'on fait.
C'est une uchronie, donc.
Pas tout à fait.
Okay.
C'est deux visions de voir les choses. Est-ce que vous préférez que je vous raconte comment le premier policier arrivé sur place a découvert les choses, ou que je vous raconte tel que les attaquants de la famille Manson ont décrit le fait que ce qui s'est passé ce
Moi,
soir.
Moi, je préfère la police.
Ouais, la police.
Ouais, la police.
Ok.
C'est le plus glauque.
Bah, c'est pareil en vrai.
Mais final, comment ça se passe quand la police arrive? Ça, c'est mieux, je trouve.
Ok. Donc, on est le 9 août 1969. Il y a d'abord le maître de maison de la famille Polanski qui vient tous les jours pour faire un peu le ménage, le housekeeper, comme ils disent, qui se pointe comme tous les matins vers 10h.
Alors déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Sharon Tate?
Ah, bien sûr, bien
qui
sûr.
Est Roman Polanski, pour ceux encore qui ne le connaissent
pour
pas,
dans le
pour
film.
Resituer un peu.
D'accord, je peux même vous raconter 2-3 trucs avant à ce moment-là. Donc, à l'époque, en 1969, Roman Polanski est déjà un réalisateur qui commence à avoir le vent en poupe dans le nouveau Hollywood, on peut dire, enfin, l'avant-nouveau Hollywood des années 60. Il a déjà réalisé notamment Rosemary Baby, Répulsion, et très peu de temps avant, il a sorti Le Bal des Vampires, qui est un peu un film... référence dans sa filmo, qui est une sorte de pseudo-parodie film d'horreur avec du contexte social, et dans lequel joue Sharon Tate, qui a un rôle assez prépondérant, et c'est là qu'il rencontre en fait cette actrice qui a déjà eu un rôle principal dans La Vallée des Poupées, je crois, Valley of Dolls, qui est un peu une nouvelle star, un peu comme tu dirais.
Oui, qui a joué avec Dean Martin.
Exactement, qui a été aussi modèle avant et qui commence à être actrice.
Et magnifique.
Tout à fait. C'est un peu le canon de beauté de l'époque. Et pendant le tournage du Bal des Vampires, ils se rencontrent, ça discute bien et tout. Et commence une relation entre Roman Polanski et Sharon Tate.
Voilà, donc
et
ça, c'est la base.
Temps, très peu de temps après, ils s'installent dans une maison. Donc. La fameuse maison qu'on voit dans le film. Mais c'est une maison qu'ils louent et ils viennent d'arriver au début de l'année 69. C'est important pour l'histoire, parce que très peu de temps après, au mois de mars, y a un type qui se pointe dans cette maison et qui commence à demander en fait l'ancien locataire, qui s'appelait Terry Melcher. Il est là, il demande « Ouais, faut absolument que je vois Terry, j'avais un truc à faire. » Et en fait, la maison est faite qu'elle est donc sur une colline, comme on voit dans le film, et il y a une dépendance. Et le mec, bon, c'est un hippie, il a les cheveux longs, il traîne dans le coin, on sait pas trop ce qu'il fout. C'est un moment où Sharon Tate fait une session photo avec un photographe. Le photographe voit le mec en train de traîner dans la maison, il fait « Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce gars ?» et tout. Il fait « Qu'est-ce que tu fais ?» Il fait « Je cherche Terry Melcher, on a rendez-vous. » Il fait « Non, mais il n'y a pas de Terry Melcher, c'est l'ancien locataire, il est parti il y a plus de 8 mois, en fait. » Il fait « Non, je sais. » Donc il traîne dans les dépendances, il repart, et il voit que le mec est un peu bizarre. Sharon Tate le voit. C'est un truc qu'on voit dans le film, d'ailleurs. Mmh. Et c'est réel, ça. C'est réel. On a des preuves que ce mec, donc Charles Manson, est venu au moins 3 fois dans la maison à rôder, parce que, en fait, à l'époque, il faisait de la musique. Et il pensait que l'ancien locataire, Terry Melcher, donc, qui était un producteur de musique, était intéressé par sa musique, et vu qu'il était fou, ce mec.
D'ailleurs, c'était pas si mauvais ce qu'il faisait, Charles Manson. Bah,
ça, je ne jugerais pas. Mais oui, il avait, en tout cas, il était poussé par un des Beach Boys, notamment, un des frères Wilson, qui était pote avec lui, qui faisait partie de la famille. Et donc, il essayait de signer, et il savait que dans cette maison, il y avait un producteur qui était censé le signer. Donc, il venait régulièrement et. Les gens là-bas se rendaient compte qu'il était chelou parce qu'il sonnait pas, il traînait dans le jardin comme s'il était chez lui. Des fois, il rentrait par une fenêtre et donc 2-3 fois, Charles Tate a fait c'est qui ce mec bizarre et tout. Et ils ont pas trop réussi à savoir qui c'était. Voilà, contexte. Ça, c'était à peu près au printemps. On se retrouve donc l'été, au mois d'août. Et donc là, je vous raconte la police, c'est ça. Donc on est le 9 août au matin et le premier housekeeper voit une voiture dans l'allée, arrêtée, et un corps dans la voiture. Et fait « Waouh, ça a l'air bizarre ». Il arrive devant la porte et il voit que sur la porte, en rouge, à peu près en bas, on peut trouver des photos sur Internet, on voit une inscription avec marqué juste « Pig ». Là, il se dit « Ok, c'est chaud ». Il va dans la dépendance, il appelle la police directe. Il ne rentre pas. Là arrive le premier inspecteur.
Il y a une sirène de police derrière pendant que tu racontes.
C'est incroyable. alors que donc il appelle la police, c'est le premier inspecteur qui arrive à peu près vers midi. Il sait qu'il y a eu un meurtre dans l'allée, mais il ne sait pas trop ce qui s'est passé de plus. Et il est le premier à arriver sur place. Et il décrit, là j'ai lu une oral history donc dans le LA Times, qui est fait en 2009, donc il est beaucoup plus vieux. Et il raconte tel quel, lui, premier flic arrivé, sur qu'est-ce qu'il voit. Donc dans l'allée, il voit donc une voiture arrêtée. Et côté conducteur, il voit un mec de 18 ans qui sera identifié comme Derek Parent. Mort, la main sectionnée, 4 balles dans l'abdomen. Il fait ok, bizarre. C'est un mec qui est pas connu du tout des services de police, mais qui est aussi pas connu comme étant quelqu'un qui puisse habiter ici ou qui a des relations avec Sharon Tate et les gens qui habitent dans le coin. Donc il dit ok, bizarre. Il arrive à l'entrée, donc là il voit bien l'inscription avec marqué pig. Il regarde, il voit que c'est écrit avec du sang.
Pig, tu veux dire cochon en français.
Qui veut dire cochon en français, tout à fait. Il voit que c'est écrit avec du sang, il ouvre la porte, et là, la première chose qui choque, c'est qu'il y a du sang absolument partout, sur les murs, sur à peu près 1 mètre de hauteur. Partout, vraiment partout. Et dans le living room, il voit 2 corps, à même le sol. Sharon Tate, ainsi que son ami, ancien amant, Jay Sebring, qu'on voit régulièrement dans le film aussi, qui était un coiffeur de star, qui était son proche et qui était en fait devenu son confident, qui était très souvent là dans la maison. Donc le flic n'était pas vraiment surpris de le voir là, ça paraissait logique. Sauf que donc, les corps étaient inanimés à terre, et il inspecte et il voit que les deux ont une corde autour du cou qui les relie. L'un à l'autre.
Qu'est-ce qui arrive les vannes ?
Et il y a 0 vanne, frère. Il y a vraiment aucune vanne. Parce que là, ce que j'allais te dire, c'est que les deux corps ont eu entre 15 et 25 coups de couteau. Et pour le cas de Jay Sebring, c'est des coups de couteau dans la tête. Au niveau de la tête, vraiment. Donc, c'est catastrophique. Et pour rappeler, dans le contexte, à cette époque, Sharon Tate est enceinte de 8 mois et demi. Donc, il s'en rend compte que l'enfant est mort à l'intérieur du corps de Sharon Tate. Ça ne bouge plus du tout. Mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Donc, il y a du sang absolument partout. Tel qu'est fait le living room, après, il voit qu'il y a la porte qui est ouverte vers l'extérieur. Il va dehors. Il y a une grande piscine. Et là, il découvre 2 autres corps. Le corps d'abord de Abigail Folger, qui est l'héritière des cafés Folger, qui est un énorme empire du café. Elle gît aussi par terre avec de nombreux coups de couteau, mais aussi des coups à la tête de manière très étrange. Pas de coups de feu, vraiment que du couteau, mais il parle de 25 coups de couteau. Et après, on a une autre personne, très grande, un pote en fait de Sharon Tate et surtout de Roman Polanski, un pote de l'époque polonaise, Donc, un big guy qui lui servait de garde du corps et qu'il l'avait laissé avec, avec Sharon Tate. Mais c'est le mec qu'on voit dans le film qui s'endort un moment sur le canapé et qui est vraiment là. La soirée telle qu'elle est présentée dans le film Once Upon a Time in Hollywood, c'est exactement tel que ça s'est passé, en fait.
Il y a donc, malgré le big guy et le garde du corps...
Lui... tel que le décrit le flic, il est entièrement habillé, mais il n'arrive pas à avoir d'autres couleurs sur ses habits que du sang. Et lui, c'est un truc de ouf. Genre, il a pris 8 balles. Il pense qu'il a recensé à peu près 50 coups de couteau sur son corps dans son entier, y compris dans sa tête. On sent qu'il a été torturé, qu'il a été étranglé et qu'il s'est débattu. Donc, le mec, c'est genre un survivor de fou.
Juste.
Il a essayé de se battre jusqu'au dernier moment, mais bon, bah voilà. Il n'y en a pas l'autre.
Mais quand tout à l'heure je disais que la scène de fin dans Once Upon a Time in Hollywood est jouissive, c'est justement parce que moi j'avais connaissance de toutes ces informations avant le film. Donc quand tu sais tout ça et quand tu connais l'horreur de la scène de crime,
T'as peur que ça va arriver, en fait.
Mais savoir qu'il les a défoncés.
Mais les gens qui ne savent pas, qui connaissent pas cette histoire-là, comment ils perçoivent le film?
C'est ça, en fait. Moi, je pense que c'était important de connaître ça avant de voir le film.
Je pense parce qu'en fait c'est un truc qui est vraiment, je sais pas comment dire, c'est un peu comme le petit Grégory en France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est impossible de pas connaître cette histoire.
C'est un traumatisme national.
C'est un traumatisme total, et en plus, sur un milieu qui est pas vraiment connu, c'est-à-dire que ce qui se passe très, très peu de temps après qu'ils découvrent ça, c'est qu'ils ont aucune piste, en fait, de qui c'est. À l'époque, Charles Manson, sa famille, on sait pas ce que c'est, en fait. On connaît pas. On sait même pas qu'ils existent, en fait.
Oui, c'est important. C'est pas une vraie famille.
Non. La famille, c'est une secte, en fait, de Charles Manson. Il a créé toute une secte qu'on peut aussi décrire. Mais à l'époque, ils pensent vraiment que c'est un truc interne à Hollywood. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est un deal de drogue qui a mal tourné, parce qu'ils apprennent que, donc, le pote Wojciech Frykowski, il avait un pote qui travaillait à la Paname, qui ramenait de la drogue, je sais plus où, de Cuba et tout. Donc ils pensent que c'est une histoire qui a mal tourné, de deal de drogue, et ils commencent à se raconter des histoires incroyables de partouz qui aurait mal tourné, du fait que Sharon Tate était à moitié nue. En fait, c'est juste qu'ils étaient en train d'aller se coucher, en fait. Quand ils les ont découverts, ils étaient en train de dormir, donc ils étaient tous plus ou moins en pyjama. Mais il y a eu des histoires incroyables qui sont sorties la semaine d'après, où les gens pensaient que c'était des rites qui avaient mal tourné, mais des choses... Parce qu'en fait, Polanski, à l'époque, avait une image assez sulfureuse, parce qu'il faisait des films qui étaient quand même un peu, pour l'époque, dérangeants. Tu vois, Rosemary Baby...
Alors maintenant, il est super clean, le gars, c'est ça?
Pas du tout! Absolument pas! Mais je veux dire, c'était avant son histoire, donc c'est même pas sur des faits avérés. C'était l'image que lui donnaient les gens... sur ce qu'il faisait de manière créative, en fait. Il était vraiment dans des films d'horreur, voire des films qui, après, comme Friedkin avec L'Exorciste, en fait, c'est des trucs qui dérangeaient les gens, surtout la société puritaine américaine de l'époque, et qui créaient un peu un fossé entre le côté un peu libre d'Hollywood, un peu hippie, drogue, sexe, etc., avec l'establishment américain, quoi. Donc tout le début de la campagne d'enquête et surtout de la presse est hyper à charge sur Sharon Tate et sur les gens qui étaient là, en disant ils l'ont bien cherché, ça va être un truc interne à Hollywood, qui a merdé, etc. Et en fait, ce qui se passe juste derrière, c'est qu'il y a une deuxième série de meurtres qui se passe pas très loin, avec un autre couple qui est mort de manière similaire, avec des inscriptions aussi, des pigs, etc. Et c'est là qu'il commence à découvrir ce truc qu'on voit après dans le film, c'est-à-dire la secte de Charles Manson. Et après, en fait, ce qui est important de voir par rapport au film, c'est que tous les personnages sont existants.
Oui, même les petites meufs qu'on voit vite fait, c'est vraiment
complètement.
Des vrais,
Alors, déjà, moi, j'ai une question pour. Ça qui est pire, c'est que c'est dans l'explication qu'ils en ont. Là, on voit sur la fin du film que les femmes sont, enfin, les tueuses sont assez prééminentes et assez hystériques dans le truc. Tu vois, vraiment vénères. C'est le cas, en fait. Il y a sur les trois qu'ont vraiment pris et qu'auraient potentiellement poignardé Charlotte Tate et les autres, il y en a deux qui sont 100% dedans, quoi.
Justement, j'avais une question pour toi, François. Toi qui as lu le livre, est-ce que du coup, il rajoute des choses
justement,
sur...
En fait, c'est ça qui était étrange, que les gens ont trouvé ça étrange. Mais aussi, c'était intéressant de se dire que dans le film, ils ne donnent pas du tout la parole à Charles Manson et à même trop leur personnage. On est toujours du point de vue des héros. Et la seule fois où on voit Charles Manson, d'ailleurs, c'était surprenant. Les gens ont dit, super, on le voit vite fait de loin et il est tout flou. Et après, il part, alors que c'est un peu. On pensait que le film allait tourner autour de lui. Et il lui donne pas du tout la parole dans le film. Dans le livre, c'est différent. Dans le livre, t'as beaucoup de scènes du côté de la famille Manson et du côté des filles et des tueuses.
et de voir comment ils ont été embrigadés là-dedans. Et ouais. T'as vraiment une scène hallucinante où une fille s'infiltre chez un couple pour préparer les meurtres. Et tu vois comment elle a été formatée.
Ça, c'est faux ou c'est vrai, du coup ?
Bah, c'est une vraie. La fille existe et tout, ouais. et c'est une répétition de meurtre, en fait.
Mais il y a eu ça beaucoup, en fait. Ils ont expliqué qu'il y avait déjà un premier gars qui était dans leur entourage, là, qu'ils appellent Beauregard, je crois.
Ils n'avaient pas tué un couple de riches, genre pas des dentistes ou un truc comme ça, mais
bah si, c'est juste après, c'est le meurtre de la nuit d'après, vraiment, dans la suite. Mais il y a eu d'abord un autre meurtre qu'ils avaient essayé de maquiller, là pour le coup, vraiment une histoire de deal de drogue. Et à l'époque, ils essayaient de le maquiller en disant que c'était des histoires entre Black Panther, que c'était vraiment un truc société, parce que vraiment, leur délire, c'était. C'est pour ça qu'ils mettaient des pigs et tout ça, c'est parce qu'ils voulaient. Ça allait créer une guerre raciale entre les Black Panthers, en gros, qui étaient très véhéments à ce moment-là en Californie, et qui étaient considérés comme des terroristes par le FBI et par la police. Et donc, ils voulaient, en gros, essayer de pousser à l'apocalypse raciale. Enfin, c'était leur délire.
Et ce qui est fascinant, quand tu étudies un peu la vie de Charles Manson, et dans le roman, ils en parlent, c'est que tout vient d'une frustration d'un chanteur qui voulait faire carrière à Hollywood.
Ouais,
et qui, justement, il s'est mis à vouloir stalker Sharon Tate parce qu'elle était dans la maison du gars qui voulait faire du business.
C'est incroyable.
Mais c'est marrant parce que du coup, y a des répétitions quand même dans l'histoire, parce que c'était un peu le cas aussi avec Hitler qui a eu une frustration de ne pas être.
Il parle souvent de ça en plus. Ouais. Il parle souvent du fait que. Puis après, il parle dans des délires aussi. C'est vraiment les sectes des années 60 où ils sont dans le délire de tuer les gens, ça va les libérer, ça libère leur karma. Enfin, ils sont vraiment blindés de drogue et à croire à des trucs du nymphe. Mais c'est vrai que ces références, c'est les Beatles, c'est les Beach Boys. Et genre, après, ils se mettent à peindre sur les murs Helta Skelta. Vraiment le titre des Beatles qui n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Et en fait, ils inventent des histoires et des propos sur des choses qui sont pas là, en fait.
Et d'ailleurs, c'est ce qui est marrant, c'est que l'acteur qui joue dans la scène Charles Manson, dans la même année, il a aussi joué Charles Manson dans Mindhunter.
Oui, j'ai vu ça.
Et le mec, il est
c'est Charles Manson, quoi.
Ouais, vraiment, il est hallucinant comment il est crédible. Et c'est intéressant de voir comment Charles Manson, qui était un mec charismatique au départ, tu vois, c'est comme ça qu'il a réussi à avoir une secte, c'est qu'il était, il passait pas pour un fou, il passait pour une sorte de Kurt Cobain un peu stylé et tout.
Ouais.
Et après quand il était en prison, il a vrillé, mais encore plus.
Plomb,
Et du coup, c'est comme si nous, on voyait un Charles Manson comme étant le mec avec une croix gammée sur le front, avec un regard complètement fou. Mais les gens à l'époque, surtout les gens de sa secte, le voyaient comme étant un mec trop stylé.
Ah,
quoi.
C'était le futur. Ils pensaient qu'eux, ils étaient en train d'inventer la société du futur, tu vois. Un truc qui allait justement écraser. C'était les années 60, en fait. Donc, ils pensaient vraiment être en train de faire une révolution. Sauf que leur idéal, il était très chelou. Et en fait, le vrai truc, c'est qu'après, ils disent pendant le procès, ça a été très compliqué d'arriver à l'incriminer.
Parce que il a
rien fait, en fait. Il a juste eu un moment où ils ont réussi à prouver qu'il a donné un coup de sabre à un mec sur le premier meurtre. Mais à chaque fois, il a poussé et incité les gens à y aller. Tu vois, par exemple, il a dit à la bande des quatre, là, il a dit à Tex notamment, vas-y, tue-les tous à l'intérieur et fais le truc le plus sale que tu puisses. C'est ça qu'il avait dit.
Le mec s'appelle Tex.
Tex, ouais. Bah, c'est le surnom qu'ils donnent, tu sais, au mec. Il y a un mec et trois filles qui vont. Ça, c'est vraiment
le
squadron qu'ils envoient.
Est-ce que le
présentateur
Tex s'appelle comme ça en hommage?
J'espère pas. Non, j'ai appris que c'est parce qu'il avait un accent texan.
Ça m'a sorti de l'histoire.
C'est le vieux du ranch qui leur a donné tout leur surnom, en fait. Parce qu'il y a aussi cette relation très bizarre dans ce ranch et tout, qui est aussi une symbolique que moi j'aime bien dans le film. Parce qu'en fait, c'est des décors de cinéma, des westerns qui n'existent plus. Et en fait, tu vois que c'est devenu l'espèce de repère d'une secte qui veulent détruire, en fait, toute cette période-là, tu vois. Et donc, il y a ce propos-là, quand même, qui est hyper intéressant. Et après, je vais pas vous raconter tout. Allez voir. Franchement, le procès, c'est un délire. Mais pour les États-Unis, c'est en gros la fin. Pour eux, il y en a plein dans cette histoire orale qui disaient il y a deux fins d'idéaux pour nous dans l'histoire américaine du XXe siècle. C'est les assassinats de Charles Manson. Et 2001, tu vois. Pour eux, c'est les deux trucs sociaux qui ont détruit, en fait,
l'idéal américain, quoi.
Il y avait tellement un idéal des années 60 de on est en train de changer les mœurs, il y a un vrai truc. Tout, ouais. Là, ils se sont rendus compte qu'en fait, 90% de ce qu'ils pensaient, même de l'image un peu cool des hippies, ça pouvait vraiment tourner en n'importe quoi, tu vois. Après, il y a eu Jim Jones, enfin, il y a eu énormément de cas, justement, de gens qui avaient dérivé et qui étaient partis en sucette, tu vois. Et après, 2001 pour d'autres raisons, mais.
Je me souviens qu'après avoir vu Once Upon a Time in Hollywood, j'étais, je m'étais renseigné encore un peu plus sur l'affaire Sharon Tate, et forcément, quand tu passes de longues minutes à te renseigner sur l'affaire, tu tombes sur des crime scenes, sur les images.
Ouais, c'est horrible.
Et t'es vraiment dans une sale ambiance après. Ouais, donc, c'est vrai, préparant ça, t'es dans une sale ambiance après.
Donc, même, bah, franchement, même ce qu'ils disent, enfin, moi, vous voulez que j'ai l'autre détail, mais c'est cata, tu vois.
C'est pas la joie.
Ouais, franchement, c'est cata. Tu te dis surtout comment ils peuvent en arriver là, surtout qu'il y a... Enfin, tu sais, ils les connaissent pas et ils expliquent vraiment dans tous les témoignages qu'ont pu avoir les tueurs, quoi.
C'est la sauvagerie, quoi.
Bah ouais. Et surtout, ils avaient aucune... je sais pas comment dire, mais aucune compassion pour ce qu'ils étaient en train de faire. Ouais. Et pour le truc de la personne à qui ils étaient en train de le faire, tu vois.
Mais surtout, c'était des jeunes. C'était...
Bah, tous ceux qui sont morts avaient la trentaine, oui, mais tous ceux qui l'ont fait avaient pas 20 ans.
Ouais, c'est ça.
Mais ça veut dire que c'est vraiment des gens de 20 ans qui tuent des gens de 30 ans. Enfin, c'est même pas un délire de on tue des plus vieux qui comprennent pas notre délire. C'est n'importe quoi, vraiment.
C'est la question que je me pose, c'est comment on rebondit après une chronique comme ça.
Et bah, ça, je sais pas.
Est-ce qu'il y a un quiz
Parce que là.
Alors, François. Alors, François.
Chronique ou pas
Alors, François, je sais que t'es féru de cinéma.
Ah bah je suis aficionados de la péloche.
Et tu me disais hors antenne que tu préférais les anecdotes croustillantes au sexe. Tu confirmes? Est-ce que tu confirmes?
On avait dit, regardez ça. Ok, vas-y.
C'est un très beau rebond.
Bien.
C'est un très beau rebond, bravo.
Et bah c'est très bien parce que j'ai des anecdotes croustillantes sur le film pour toi.
Ah oui.
Tu vois, c'est pour ça que je faisais ça et ça va te régaler. Alors, première anecdote que j'adore. Afin de reproduire le Hollywood des années 60, l'équipe des décors est partie solliciter des boutiques sur Hollywood Boulevard en leur demandant de remplacer leurs façades par des façades d'époque. Plusieurs ont refusé, d'autres étaient dubitatives et finalement, celles qui hésitaient ont décidé après le film de garder leur nouvelle façade ambiance années 60. C'est pas mal, c'est-à-dire que maintenant sur Hollywood Boulevard, les vieilles façades, bah, c'est les vieilles façades du film qu'on peut revoir dans la rue. Ça te plaît ça, hein?
J'aime bien.
Tu vois
ça.
Que t'adores les anecdotes croustillantes.
Ah, j'adore.
Bah, tu vois. Fait rare dans les films de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood réserve une place plus ou moins importante à l'impro. Habituellement, Tarantino est très strict sur le texte qui doit être respecté à la virgule, mais cette fois, il accepta que DiCaprio se laisse aller à quelques improvisations sur le plateau, en particulier la scène où il se trompe plein de fois dans son texte. Là, c'est vraiment DiCaprio qui est pas mal en impro sur cette scène.
En même temps, c'est DiCaprio, il a le droit. Enfin, je veux dire,
Bah écoute. Tiens, celle-là, je l'adore en même temps, je les adore toutes ces petites anecdotes. La Cadillac que conduit Brad Pitt dans le film, eh bien, elle appartient dans la vraie vie à Michael Madsen, grand pote de Tarantino et acteur de Reservoir Dogs, on s'en souvient. Voilà, c'est la caisse de Madsen.
Et lui a dit, je te prête ma voiture, tu me fais un rôle. Il fait.
Non, juste la caisse.
Non, ouais, non, juste la caisse.
J'ai une question pour toi par rapport à l'anecdote précédente. Si un jour DiCaprio il vient dans Video Store, il a le droit d'improviser ou pas?
Oui, il peut faire ce qu'il veut. Il peut vraiment dire ce qu'il veut.
Reste là, fais ce que tu veux.
Dans la même veine, Margot Robbie porte dans le film des bijoux qui ont réellement appartenu à Sharon Tate. C'est la sœur de cette dernière, Debra Tate, qui les a sympathiquement prêtés pour le tournage. Et d'ailleurs, Debra et Tate. Alors en fait, parce qu'il. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées à Tarantino sur Polanski. Après le film, on lui a dit, est-ce que vous êtes entretenu avec Polanski pour le prévenir ou pour lui raconter un peu le contenu du film? Il a dit non, pas du tout. Mais par contre, je me suis beaucoup appuyé sur les souvenirs de Debra Tate pour le personnage de Sharon Tate.
Est-ce que Polanski l'a vu le film?
C'est une bonne question. Je sais pas.
Et c'est vrai qu'il est pratiquement pas dans le film, ça c'est intéressant. C'est que c'est un des personnages centraux de
Mais on
cette
le voit
affaire.
Un petit peu, non?
Vite fait, on le voit en voiture, voilà, mais il n'a même pas de réplique. Quoi.
Là, après, il était vraiment absent, pour mettre dans le contexte. C'est un moment où il est en train de préparer un film à Londres, et donc il n'est pas du tout là. Okay. Et en fait, Sharon Tate vient de revenir, elle était avec lui en fait en Europe, elle est revenue 3 semaines avant l'assassinat. Ouais. Donc elle n'est même pas là, et c'est sa nouvelle maison. C'est pour ça qu'elle veut toujours avoir du monde à la maison, parce qu'elle ne se sent pas trop chez elle, et son mec n'est pas là. Et Polanski est en train de préparer un film que finalement il ne réalisera jamais, qui sera réalisé par Mike Nichols, c'est The Day of the Dolphin.
Incroyable. Figurez-vous que le film n'est pas sorti en Chine puisque les Chinois n'ont pas accepté la façon dont est dépeint Bruce Lee dans Once Upon a Time in Hollywood. Les Chinois ont demandé à Tarantino de couper les scènes avec Bruce Lee pour qu'il puisse sortir là-bas, mais bien évidemment, Tarantino, réalisateur intègre, refusa. Donc en fait, ils n'aimaient pas que Bruce Lee se fasse défoncer par Brad Pitt.
Ouais, en fait, moi, je comprends pas cette scène, vraiment.
Alors, il a, dans le bouquin, c'est un peu plus décrit, et en interview, Tarantino, il la défend cette scène en disant que vraiment. C'est lui qui dit ça, il dit que Bruce Lee était connu pour ne pas respecter les cascadeurs américains. Du coup, il n'avait pas de problème pour on va dire, montrer qu'il était plus fort qu'eux et que lui faisait des vrais arts martiaux et que les cascadeurs américains n'étaient pas aussi forts que lui. Et donc, du coup, il défend vraiment cette vision qu'il a de Bruce Lee en disant Bruce Lee, il était arrogant sur les plateaux, il se la pétait. Donc, c'est vrai que quand on le voit dans la, dans la scène, il est vraiment, il se la pète de ouf.
Parce que d'ailleurs, ça avait fait polémique dans la mesure où la fille de Bruce Lee.
Ouais, la fille de Bruce Lee, elle s'est plainte aussi.
Ouais, c'est plein. Et puis.
Surtout que c'est quand même le seul personnage autre que blanc, beau gosse.
Alors, ça, c'est tout le problème qu'on peut reprocher à Tarantino et à ce film en général, c'est que c'est un film à la gloire des vieux blancs.
Réac
et tout, tu vois. Donc, du coup, toutes les minorités, machin, les personnages féminins. Alors, c'est un peu un film à la gloire de Sharon Tate, mais elle est très là sans faire grand chose.
On voit ses pieds.
Voilà, on voit beaucoup ses pieds. Du coup, Bruce Lee fait partie des dommages collatéraux aussi, en mode, alors que pourtant il fait partie des gens, on pourrait se dire que Tarantino il adore Bruce Lee, puisqu'il a fait des hommages.
Il l'adore d'ailleurs.
Voilà. Ouais. Mais il dit, oui, mais par contre, sur un plateau, dans ce contexte-là. Et comme. Alors, l'autre truc qui est assez différent dans le bouquin aussi, c'est que dans le film, le personnage de Brad Pitt, il est héroïque un peu. Il a un passé un peu sombre et on ne sait pas s'il a tué sa femme.
C'est vrai.
Dans le bouquin, c'est très différent. Dans le bouquin, il te raconte tout son passé et il te dit il l'a buté. Ils te disent, il n'y a aucun doute, il l'a buté et il a buté trois autres mecs. Okay. Alors, ils te disent, c'est une ordure. Et limite un violeur.
Parce qu'on ne se dit pas ça dans le film.
Et dans le film, c'est Brad Pitt, on l'adore, il est stylé. Et dans le livre, tu dis, non, ce gars, c'est vraiment un gars dangereux.
C'est pour ça que c'est intéressant le livre, parce que finalement, c'est un autre Once Upon a Time in Hollywood.
Exactement. Et c'est un peu le background et je trouve ça hyper intéressant.
Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que le livre, ça devient une uchronie du film.
Oui, c'est une version alternative du film en lui-même.
À vérifier quand même, à vérifier.
qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire un truc là-dessus. Sur le fait qu'on avait reproché à Tarantino que Once Upon a Time in Hollywood pouvait être réac, etc. En même temps, et tout à l'heure tu le disais dans ta chronique, Guillaume, il vient, Tarantino, d'un cinéma aussi qui est réac. Lui, c'était un fan de Dirty Harry, des Sergio Leone, etc. Donc ça il le revendique à fond quand même.
Je ne remets pas en cause, c'est juste le fait d'aller au point de l'uchronie, de vraiment casser tous les autres mythes, et, à part celui qu'il a envie de mettre en avant. Et surtout, j'aurais apprécié qu'il y ait une ou deux autres scènes avec Bruce Lee pour... Pas juste le fou contre une bagnole.
Ça paraît un peu gratos.
Là, c'est 3 minutes. Genre, il dit, vous êtes des bouffons. Pouf, il le fout contre une bagnole. Et après, ça s'arrête. Et
après,
on revoit jamais.
Il savait que ça allait parler là-dessus.
Bien sûr. Mais c'est juste que, je sais pas si c'est nécessaire en fait.
La prochaine, je l'adore.
Ah.
Je mets bien les autres aussi avant.
D'accord.
Alors, ça, j'ai trouvé ça fou. Sur le plateau, Leonardo DiCaprio était hyper intimidé de se retrouver avec Luc Perry. Puisque Luc Perry, c'était son idole lorsqu'il était jeune. Pour ceux et celles qui l'ignorent, Luc Perry a interprété le fameux Dylan McKay durant des années dans la série culte Beverly Hills. Luc Perry qui nous a malheureusement quitté récemment. Et Leonardo DiCaprio était un fan de Beverly Hills. Et pour lui, il l'a dit dans une interview, c'était le nouveau James Dean.
Tout
le monde pensait ça.
Avec
et pour lui, c'était une idole. Et il disait même, c'est un modèle, moi je veux être comme Luc Perry plus tard. Quoi. Et c'est génial quand t'es Luc Perry et que t'es DiCaprio qui te lèche les bottes à côté. C'est un vrai plaisir.
C'est à peu près la même carrière, quoi. Pas vraiment.
Alors qu'il avait qu'un seul style de jeu, le mec. Il faisait ça, là. Il faisait les sourcils, il faisait du surf, il était bourré.
Mais tu trouvais ça cool que Tarantino
Luc Perry, il a joué un très bon rôle dans Oz aussi, la série Oz. Très bon, un curé.
Une des scènes a réellement été tournée à l'intérieur de la Playboy Mansion, puisqu'il s'avère que Tarantino était un très bon pote de Hugh Hefner, fondateur de Playboy, et qu'il avait l'habitude d'aller à ses soirées, ce gros porc. Et d'ailleurs, j'avais fait un tab sur Tarantino, et Tarantino a une blague qui fait souvent sur ses tournages de mémoire comme ça, c'est qu'en fait, quand ses acteurs dorment sur ses films, il prend un god violet, il a un god violet.
Toujours sous la main, quoi.
Ouais, il a toujours un god violet sous la main. Okay. Et en fait, il le pose, je sais pas, sur le torse de Brad Pitt en train de dormir entre deux scènes. Il le prend en photo. Et en fait, chez lui, il a plein de photos de ses acteurs qui dorment sur le tournage avec le god violet sur eux. Voilà, t'as fait ça sur ton film, toi, non? Avec Arnaud Ducret.
Personne pouvait dormir déjà.
Un petit god sur lui.
On n'avait pas l'occasion de dormir.
Ah ouais? Ouais, fallait aller vite.
On pouvait pas faire des blagues.
Non. Très bien, dommage. alors, vous connaissez tous Lee Van Cleef. Qui ne se rappellent pas de Lee Van Cleef, Le Bon, la Brute et le Truand, ou encore Escape from New York, parce qu'il joue dedans, Escape from New York.
Le méchant.
Avant le tournage, est-ce qu'il est vraiment méchant dans Escape from New York?
Ouais.
Il y a un mix des deux, hein.
Bah, c'est qu'en fait, Snake Plissken est censé être le méchant, mais c'est le gentil de l'histoire. Donc,
Il y a
c'est
un keuf
quand même.
Donc, avant le tournage, Tarantino visita la maison dans laquelle il a vécu afin de faire du repérage. Et dans le garage, il aperçut un immense poster du visage de Lee Van Cleef. Et Tarantino trouva ça bizarre et marrant en même temps. Alors, dans le film, il décida d'en faire de même avec le perso de Rick Dalton en plaçant des portraits de lui un peu partout. C'est pour ça qu'on voit des portraits de Rick Dalton un peu partout dans sa maison. C'est un hommage et une inspiration directe de Lee Van Cleef.
Quand il se garde, chaque fois qu'il se garde, on voit sa tête.
Exactement.
En grand.
Bah, c'est pour ça, en fait. C'est dans le driveway. C'est ça, en fait, c'est grâce à Lee Van Cleef qu'on a ça.
Ah, trop bien.
Alors, dans le film, on peut apercevoir l'acteur Bruce Dern, qui joue le vieux à qui appartient le ranch.
Ouais.
À la base, ce rôle était destiné à Burt Reynolds, qui malheureusement décéda quelques jours avant le tournage. Il fut donc remplacé rapidement par Bruce Dern, qui, je le rappelle, est également le père de l'actrice Laura Dern, que l'on adore. Et enfin, dernière anecdote...
C'est marrant qu'il est, à mon avis, il voulait rendre hommage à Burt Reynolds dans ce film. Alors, à mon avis, Rick Dalton, c'était un peu un Burt Reynolds.
Ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
Donc c'est marrant qu'il l'ait utilisé dans le rôle du vieux qui
avait. Ouais, mais Bruce Dern, ça fonctionne bien aussi.
Ouais, c'est vrai.
Et enfin, Tarantino déclara que Brad Pitt et DiCaprio sont pour lui dans ce film les nouveaux Robert Redford et Paul Newman. Il parle bien évidemment de l'époque où les deux acteurs jouaient ensemble dans des films comme Butch Cassidy et le Kid ou encore The Sting. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est un peu les Paul Newman Redford.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, Brad Pitt DiCaprio, ça le fait un peu.
Alors quoi. Qui est Paul Newman, qui est Redford?
Moi, je dirais Paul Newman, Brad Pitt et Robert Redford. Ah, quoique.
Ouais,
Robert Redford, il a un petit côté Brad Pitt.
Redford,
mais Paul Newman, pas vraiment DiCaprio. Tu vois.
Paul Newman, il est plus carré quand même.
Ouais, c'est vrai.
Redford, il est toujours un peu genre, oh, ça va, c'est cool, c'est sympa.
Mais c'était la première fois qu'ils étaient ensemble dans un film.
Mais je crois que oui, non.
Côte à côte.
Ouais.
Je crois, oui.
J'ai pas d'autres souvenirs
c'est
de
ça DiCaprio qui est fou, en fait. C'est de se dire, attendez, ils ont jamais joué ensemble. C'est improbable, quoi.
Et d'ailleurs, j'avais lu une autre anecdote que j'ai pas placée, c'est qu'à Cannes, parce qu'il y a eu la première à Cannes de ce film. Et il y avait un interview croisé entre Tarantino entre DiCaprio et Brad Pitt, pardon.
Ouais.
Et les deux disaient, c'est trop bien, franchement, c'est trop bien entendu. Moi, j'ai trop envie de retourner avec lui, etc. Il y avait une grosse alchimie sur le film. Aurélien est en train de regarder en même temps si ils ont déjà joué ensemble. Mais je ne crois pas. Hein.
Non, mais ça me dit rien.
Pour pas qu'on se fasse insulter sur Twitter.
Bah ouais, t'imagines.
Mais non, mais moi, j'ai pas de souvenir de.
Non, moi non plus.
Non. Je sais pas. Bon, bref, on verra.
Brad Pitt et Leonardo DiCaprio avaient déjà joué ensemble avant Tarantino.
Dans.
Une affaire qui bah ce jeu kiki là.
Alors
halluciné, c'est hop hop hop, ils ont formé le duo nananana. C'était en 2015 dans un court-métrage intitulé The Audition réalisé par un certain Martin Scorsese.
Ah oui, donc genre une pub sponsorisée.
Écrit par Terence Winter. Non, c'était un vrai truc. Hein.
On approche de la fin de l'émission, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines, François, le dernier film que tu as vu au cinéma.
C'est Last Night in Soho, d'Edgar Wright.
Ah, Edgar Wright. Est-ce que c'est bien?
Et c'est marrant parce que c'est assez similaire à Once Upon a Time in Hollywood. C'est un film sur la nostalgie, littéralement un voyage dans le temps dans les années 60. Mais dans ce film, ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est qu'il fait une vraie critique des années 60. C'est-à-dire qu'il démontre le côté idyllique, le côté oh là là, les habits, la musique, les mecs sont stylés. Et en fait, il te montre l'horreur qu'il y a derrière ce masque de glamour. Chose que dans le film, c'est pas le même type de propos, quoi. Donc je trouve ça très bien. Voilà. Écoute,
alors pour motiver les gens à aller voir ce film, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'a réalisé avant Edgar Wright?
Edgar Wright, il est tout connu pour avoir fait la trilogie du Cornetto avec Simon Pegg, à savoir Shaun of the Dead, Hot Fuzz, le dernier pub avant.
Et est-ce qu'on retrouve un peu cet humour dans le film?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. C'est vraiment
c'est fini,
un autre. Ça qui est bien, c'est que c'est un autre type de genre qu'il avait pas trop fait. C'est vraiment un film d'horreur psychologique.
D'ailleurs, j'ai vu qu'il était très peu distribué, c'est assez dommage.
Ouais, il se plante un peu, malheureusement. Alors qu'il est vraiment. La mise en scène est incroyable, les musiques sont super.
Il y a des bons retours.
Les acteurs sont bien. Mais ça fait partie des films un peu qu'on ne fait plus. Des thrillers paranormaux. C'est pas un film d'horreur assumé, tu vois. Donc, du coup, ils peuvent pas le vendre comme un film Blumhouse et tout. Mais j'ai trouvé ça très
écoute,
bien.
J'étais très chaud pour le voir et je suis encore plus chaud pour le voir.
Vas-y, maintenant. Ouais.
Le dernier film. Sixième sens.
Non. Comment?
C'est genre le sixième sens.
C'est
n'en dis pas trop.
Ouais, c'est ça, c'est le genre de film où tu dis le genre, ça spoil le
okay,
film.
D'accord.
OK, très bien. Le dernier film que tu as vu via une plateforme.
Je me suis rematé récemment Get Shorty qui pour le coup parle aussi d'Hollywood, etc. J'avais oublié. En fait, c'est marrant parce que ce film je l'ai vu il y a hyper longtemps.
Film que tu m'as proposé parce que en fait, pour ceux qui l'ignorent, quand on prépare un podcast avec un invité, en général ce que je fais c'est je lui dis donne-moi 5 films que t'aimerais aborder dans le podcast et puis après moi j'en choisis un à la fin et t'avais proposé Get Shorty.
Bah ouais, que j'avais un peu, je pensais l'avoir oublié et quand je l'ai revu j'ai fait en fait je me rappelle de toutes les scènes tellement qu'il m'avait marqué à l'époque. Et en plus parce que j'ai aussi fait ça, c'est que j'ai lu le bouquin aussi que j'avais pas lu, j'ai pu faire une comparaison entre le bouquin et le film, ils sont quand même très similaires. Et
c'est un bouquin d'Edmond Léonard, non, c'est pas
ouais,
ça
d'Edmond Léonard, absolument. Et et vraiment c'est vraiment génial ce film, quoi.
La dernière série que t'as regardée?
Ça compte les séries documentaires?
Ouais, bien sûr.
Bah alors le documentaire sur Aurel San par son frère là, c'est voilà, incroyable.
Combien d'épisodes?
6 je crois. Ouais, okay. Et c'est aussi bien que la hype qu'on met, c'est vraiment génial. C'est 20 ans d'archives, c'est à la fois drôle, émouvant et tout, c'est hyper bien fait, voilà.
Tiens, je dois dire du coup, parce qu'on en avait parlé dans les épisodes précédents, que j'ai enfin regardé Squid Game. J'ai pas détesté, mais j'ai pas non plus adoré. Je pense qu'aussi il y avait tellement une hype autour de la série. Et j'étais assez déçu, j'en parlais hier avec Guillaume sur Insta, j'étais assez déçu par le dernier épisode. Tu l'as vu toi, François, Squid Game?
Oui, j'ai vu. Et alors moi j'ai bien aimé dans sa globalité, vraiment. Et le dernier épisode est très clairement un cliff pour une deuxième saison, tu vois. Donc c'est un peu étrange, mais j'ai trouvé ça très fort. On sent qu'à la base c'était un film qui a été étiré, donc du coup il y a des intrigues secondaires qui vont un peu nulle part, mais c'est quand même de haut niveau, quoi.
Non, mais en fait moi j'arrive à comprendre l'engouement qu'il y a eu autour, et je pense que très clairement ça va être une série qui plus tard deviendra culte pour les... pour je sais pas, pour mettons, j'imagine, les jeunes de 15-16 ans qui ont regardé ça.
Il y a le côté, ceux qui n'ont pas vu Battle Royale découvrent ça.
Mais toi, je pense que dans 20 ans, ceux qui ont 15-16 ans aujourd'hui, ils diront, tiens, tu te souviens de Squid Game, c'était vraiment un gros truc, etc. Tu vois, je pense,
alors qu'on se rappelle de Running Man.
Alors, je pense que le problème, c'est que Squid Game, comme maintenant, ils ont annoncé une saison 2, si la saison 2 est pourrie, les gens vont peut-être avoir moins de nostalgie sur la saison 1.
Ça va rester juste une saison.
Mais tu vois, j'ai peur que Squid Game, ça devienne un truc...
Ça va être Casa de Papel, moi, je vous le dis.
Bah, tu sais, comme Prison Break ou tout comme ça, tu sais, les trucs qui vont très fort sur les premières saisons, et puis après, ça va s'étirer.
Le problème des high concepts en série, c'est que très vite, ça tient pas, très vite, ça devient un peu n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est souvent fait pour faire des films. Tu vois, Battle Royale, c'est un super film. Ils en ont fait un 2 et tu fais genre, bah oui, bon.
Parce que là, ça se termine, on le dit pas, on peut pas le dire.
Non, on peut pas le dire, mais moi, enfin, en tout cas, j'étais déçu par le dernier épisode.
Ouais.
Rouge.
La dernière chanson que t'as écoutée, François?
En ce moment, j'écoute une chanson. Alors, ça s'appelle Silk. Comment s'appelle la chanteuse? En fait. Je me suis rematé, je ne sais pas pourquoi, sans raison, la bande-annonce de Trainspotting 2.
Ok.
Que je trouve, en termes de... Déjà, le film, j'adore. J'adore le 1, j'adore le 2. Et la bande-annonce de Trainspotting 2, elle est incroyable. Et du coup, dans la bande-annonce et dans le film, il y a une Wolf Alice, la chanteuse. Et vraiment, je sais pas, je l'écoute en boucle en ce moment.
Ok, voilà. Cool. Le dernier livre que tu as lu?
Le dernier livre que j'ai lu, en ce moment j'écoute, alors je fais beaucoup des livres en livre audio, donc du coup en ce moment j'écoute un livre de Daniel Sloss, qui est un humoriste écossais qui fait des spectacles. En ce moment il est sur Netflix, il a plusieurs spectacles et tout, et il a sorti un livre qui est une sorte de version longue de ses spectacles et tout, et ça s'appelle Everybody You Hate is Going to Die. Et c'est hyper drôle, et c'est très fort. Ça parle des relations, ça parle d'être jeune à notre époque et tout. Et Daniel Sloss, donc un gars à découvrir déjà sur Netflix, son spectacle et son roman. Enfin, c'est pas un roman, c'est finalement des essais, en fait.
Alors, c'est quel type d'humour?
Décalé.
Tu peux... bah, un peu une sorte de Aziz Ansari, dans le sens où ça parle vraiment des relations modernes. Et en même temps, c'est un Écossais, donc du coup, il fait des blagues sur l'Écosse, les Américains, les Anglais, tout ça.
Et alors, c'est pas lui qui raconte le livre audio?
Si, il lit le livre
et
audio.
Et donc, tu captes l'accent écossais, parce que l'accent écossais est très compliqué.
Oui, mais il sur-articule bien.
Mais il est sous-titré. Pas du tout, bah non, c'est un livre. Ça ne marche pas.
La dernière BD ou le dernier manga que t'as lu?
Alors, la dernière BD que j'ai lu, alors, en fait, j'ai l'impression que je reçois beaucoup de BD, parce que j'ai plein de copains qui en font. Et du coup, la dernière BD de Gélus, c'est un cadeau d'un copain. C'est la BD de John Rashid, qui s'appelle Comme on peut, qui raconte en fait son enfance dans les années 80-90 et tout. Et c'est hyper bien raconté, hyper bien dessiné. Et c'est vachement bien. Donc, Comme on peut, c'est dessiné par El Kim. Et c'est donc John Rashid qui raconte son enfance. Quoi.
Le dernier objet culturel que tu as acheté?
Alors, un jeu vidéo, ça compte?
Bien sûr.
J'ai acheté. C'est très précis, mais il y a un jeu que j'adore qui s'appelle Outer Wilds, qui est un jeu d'exploration spatiale avec des énigmes, et ils ont fait un DLC récemment qui s'appelle...
C'est quoi un DLC?
C'est une sorte d'extension du jeu. C'est comme une suite, mais pas vraiment. Et c'est incroyable. Quoi. Vraiment,
sur quelle console?
Là, je l'ai sur PC, mais il est partout. Il est sur Switch, il est sur PlayStation.
Okay.
Et c'est vraiment un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie.
C'est quoi, c'est un jeu de stratégie ou pas?
Non, c'est un jeu d'exploration. T'es sur une planète, t'as un vaisseau et tu vas dans tout le système solaire.
Mais j'ai entendu parler de ce truc.
Et t'as des énigmes et tout. Et c'est un jeu où tout est fait pour que tu voyages par toi-même, tu vas où tu veux, tu découvres des choses, tu fais le rapprochement entre deux trucs, tu comprends comment les planètes fonctionnent et tu débloques des choses. Et c'est hyper beau. Il y a très peu de dialogue en fait. C'est vraiment purement visuel et c'est incroyable.
Ce podcast est désormais terminé. François, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu? On l'a un peu abordé au début du podcast, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu peux rajouter d'autres infos?
Donc en ce moment là, je termine la post-prod donc du film Le Visiteur du Futur. J'ai d'autres projets de long métrage en pareil. Hein, c'est toujours un peu nébuleux parce que dans le cinéma, c'est jamais à un an près. Genre même quand on te dit, déjà on peut te dire non. On te dit jamais vraiment non. On te dit ouais peut-être. Et même quand on te dit oui, ça veut pas dire oui maintenant. C'est peut-être oui dans deux ans. Quoi. Mmh. Donc c'est ça qui est, je suis un peu dans cet entre-deux-là.
C'est comme avec les meufs, quoi. Non, pas du tout. Aucun rapport. Oui, dans deux ans. Ah bon.
Et du coup, je sais pas si j'enchaîne tout de suite sur un film ou pas. Je serais content aussi de pas travailler aussi, hein, voilà, de kiffer la life. Et de finir Otherwise, voilà, mon actualité.
Ok, d'accord.
Pas mal.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Once Upon a Time in Hollywood. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinematcher dispo sur le site de Wheel of Cinema. Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Bye tout le monde.
Bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.